Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Aujourd'hui, podcast 75 dédié à une grande saga, saga de la société Electronic Arts. C'est forcément société qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment et qui a énormément fait parler d'elle par le passé, bien évidemment. Electronic Arts, désormais deuxième éditeur tiers au monde, dans le domaine du jeu vidéo bien sûr, alors que pendant très longtemps, des dizaines d'années, il trustait la première place. Electronic Arts en plein changement d'attitude, Electronic Arts en plein boom aussi, au niveau de ses techniques de développement, sa manière de concevoir les jeux. Tout ça, on va en parler, mais bien évidemment, on va parler aussi de la genèse de cette société, qui a commencé en 1982. Tout ça pour en parler, bien sûr, autour de moi et de la table à repasser, Julo, Angel, Rahan, Caf. Messieurs, êtes-vous prêts ?
Prêts ? Bonsoir.
Pour l'instant, il y en a deux qui sont prêts. Voilà, tout le monde est prêt. Electronic Arts, podcast, saga. C'est parti, j'ai envie de dire. Et tout ça commence il y a bien longtemps, en 1982. Une société qui a donc maintenant 26 ans, créée donc par Trip Hawkins, qui à l'époque était directeur de stratégie et marketing chez Apple, et qui a donc quitté Apple pour fonder Electronic Arts. Electronic Arts, d'ailleurs, ce n'était pas le nom initial de la société. On y reviendra tout à l'heure un petit peu plus. Alors, Electronic Arts, géant colossal aujourd'hui, eh bien, faut savoir qu'à la base, ça n'a été créé qu'avec 200 000 dollars. Ça paraît pas énorme, hein, comme ça, par rapport aux milliards d'aujourd'hui.
Qui ont été prêtés par Sequoia Capital.
Pas tout de suite. En fait, ça, c'est les fonds propres de Trip Hawkins, les 200 000 dollars. Et en fait, après, il y a eu effectivement des prêts à hauteur de 2 millions de dollars qui sont arrivés juste après CAF.
200 000 dollars à l'époque, c'est quand même une super belle somme. Hein.
C'est une belle somme.
Je pense que Apple a démarré avec bien moins que ça, par exemple.
Ah, c'est sûr. Mais néanmoins, c'est
et Microsoft.
Et Microsoft aussi, hein, dans un garage. Mais ça reste à relativiser avec les milliards qui seront générés quelques années après. Et même, j'ai envie de dire, les millions qui seront générés très rapidement. Puisque, donc, dès l'année du lancement, en 1982, Electronic Arts se porte plutôt pas si mal que ça. Puisque, pour un premier exercice, ils engrangent 5 millions de dollars de chiffre d'affaires. L'année suivante, 11 millions de dollars. Ça fait rêver certains. Je vois qu'il y a des grands sourires, etc. Gameblog est à peu près seulement deux fois moins que ces chiffres. Hein. Et en 84, donc trois ans après sa naissance, Electronic Arts générait 18 millions de dollars. Aujourd'hui, on parle plutôt de centaines de millions de dollars. Et si on parle chiffre d'affaires, plutôt de milliards. Donc beaucoup de chemins ont été parcourus. Est-ce que quelqu'un veut me parler de l'anecdote justement concernant eh bien, le nom Electronic Arts ? Comment c'est né ?
Eh bien...
Julo.
Il me semble que je suis désigné.
Tout à fait.
Donc,
parce que c'est assez intéressant. Vous
donc
allez
ça s'appelait Amazing Software à la base.
Ah, c'est le nom qui aurait pu être donné, on va dire.
Voilà. Et finalement, il y a eu un début d'activité quand même avec ce nom-là. C'est simplement qu'au bout d'un moment, peu satisfait de ce nom-là, Trip Hawkins a regroupé un peu tout le monde dans un ranch, je crois, je sais pas où, pour faire un énorme brainstorming d'une nuit entière où tout le monde devait donner son avis, etc. Mmh, mmh. Et donc, ça aurait pu s'appeler notamment, je sais plus, Software Artist ou quelque chose comme
Electronic
ça.
Electronic Artist ou Blue Light en hommage à Tron.
Voilà.
Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est pourquoi ce côté artiste.
Bah parce que c'était quelque chose que voulait pousser Trip Hawkins, qui voulait en faire un peu son argument principal. Les développeurs de jeux peuvent être des artistes, sont des artistes, il faut les présenter comme tels.
On rappelle, en 82, c'est très précurseur comme attitude.
Oui, bah complètement, parce qu'à l'époque, les jeux vidéo, c'est encore un truc pour des gamins attardés, etc. Donc,
puis c'est super moche en plus. Faut
voilà,
rappeler,
et bien en plus, voilà, parler d'art et d'artiste, ouais. c'est un peu compliqué.
Pourtant, il avait quand même assez bien réussi justement à drainer pas mal de, entre guillemets, artistes, ces développeurs, puisque dans tous les livrets des jeux, ouais. les créateurs étaient pris en photo,
ouais,
on
clairement.
Avait leur photo, une petite bio.
Ils étaient starisés un peu.
Un petit peu, ouais, complètement.
Voilà, ils étaient un peu starisés, et même dans les pubs des jeux, on voyait les développeurs en plein pot, quoi, représenter un peu leur jeu, etc. Donc c'était vraiment l'idée de... d'artiste, d'art, devait apparaître dans le nom de la marque.
Ce qui est quand même assez intéressant. Et effectivement, juste à cette période-là, il y a la boîte de cinéma United Artists qui s'est lancée, et c'est justement ce que Trip Hawkins voulait garder comme idée. Et c'est pour ça, tu le disais à juste titre, que la société, pendant un moment, pendant quelques heures, lors de ce grand brainstorming, aurait pu s'appeler Electronic Artists.
Voilà.
Sauf
et là,
que ça ne plaisait pas aux gens, apparemment.
Bah, y en a un qui s'est élevé, alors je ne me rappelle plus son nom, c'était un des
responsables de...
Voilà, de...
On va l'appeler John.
D'Amazing.
Disons John, ouais. Qui a dit non, nous ne sommes pas les artistes. Les artistes, ce sont eux.
Les développeurs. Et, ouais.
Et donc, voilà, à partir de là, tout le monde a fait « Ah oh, ouais, il a raison !» Et donc, ils ont changé Electronic Artists par Electronic Arts, c'est-à-dire ceux qui fédéraient un peu les artistes autour d'eux, etc.
Angel. Tu te dis qu'à ce moment-là, ils devaient déjà être tous plus ou moins bourrés.
Moi,
je trouve que c'est une belle histoire, une belle création de nom.
Parce qu'il faut rappeler que Electronic Arts était uniquement éditeur, donc pas du tout développeurs à ce moment-là. Quoi.
Voilà. Et justement, leur but, c'était de fédérer autour d'eux, autour de leur signature, le maximum de ces développeurs, de ces artistes. Alors, justement, même au niveau du logo, ça reflétait bien ce côté un peu artistique, puisque le logo actuel Electronic Arts EA ne date en fait que de 99. Ouais. Et donc, en 82, ils avaient un autre logo qui était beaucoup plus artistique.
C'était E-O. Ah, en fait, c'était un carré, un rond et un triangle. Voilà. Ça a donné des idées à certains, je crois.
Alors, ben justement, ouais, ça c'est pour l'anecdote, c'est assez amusant parce que beaucoup de personnes appelaient à l'époque EOA, justement. Voilà. Et en fait, apparemment, il fallait pas dire ça.
Ouais.
Parce que le O, en fait, n'était pas du tout un O, mais donc vraiment une sphère et qui n'avait strictement aucun sens.
Ouais, alors cela dit, après, dans certains autres logos qui ont été faits après, et qui étaient notamment en bas de jaquette, t'avais Electronic Arts marqué horizontalement tout du long de la jaquette, et t'avais donc le deuxième E d'électronique qui était un carré, le O d'électronique qui était un rond, et le A de Arts qui était un triangle.
Ouais.
Voilà.
Donc c'était une approche effectivement assez artistique. Moi j'ai une petite question à vous poser. Aujourd'hui vous connaissez l'un des slogans les plus connus d'Electronic Arts.
It's in the game.
Ouais, et la vraie face totale étant If it's in the game, it's in the game.
Phrase que
j'ai jamais compris moi. Si c'est dans le jeu, c'est dans le jeu. Il va falloir qu'on m'explique quel créatif a pu sortir ça, franchement.
Ah, si c'est dans le jeu, le vrai, c'est dans le jeu vidéo.
Mais je te l'ai dit, c'était bourré dans le ranch.
Voilà, ouais, mais ça a un sens en fait, incroyablement.
C'est ça, ouais, parce que ça vient d'Electronic Arts Sport surtout. Donc si c'est dans le jeu. Voilà, si c'est dans le jeu, genre le foot, le football américain, etc., bah vous le retrouvez dans notre jeu à nous.
Voilà.
On comprend mieux. Mais néanmoins, à l'époque, c'était pas du tout ça. Est-ce que vous savez un petit peu quel était ce slogan incroyable ?
Balance.
Eh bien, c'est beaucoup plus simple, c'est With the Father.
Oula, quoi ? Tu l'as.
Non, voilà. Farther.
Okay, on voit plus loin.
On voit plus loin, voilà. On voit plus loin.
Je suis obligé de traduire. Je parle couramment le anglais julien.
Gros loup.
Voilà. Écoutez, on voit effectivement plus loin, ce qui était quelque part une fois plus. Toujours le côté un peu artistique.
Prétentieux.
prétentieux, pas tant que ça. Enfin, ça donne une direction, un chemin à tracer.
Je trouve que ça rend vraiment sympathique l'histoire d'Electronic Arts. Aujourd'hui, on essaye un peu de donner ses lettres de noblesse aux jeux vidéo.
Ça reste, permets-moi d'être vulgaire, je trouve que ça reste quand même dans le culotte de mouche, quoi.
Je suis pas d'accord du tout.
Les médias aussi comme ça. Je pense qu'il peut y avoir une approche artistique dans le jeu vidéo et que
complètement.
C'est bien de la pousser.
Quand tu fais FIFA, c'est sûr que tu te sens comme un artiste.
Mais ils ont fait d'autres choses.
dont des jeux que tu as particulièrement passé de temps dessus, genre les Sims par exemple.
Et d'ailleurs, l'une des particularités pour revenir à ce côté Julo. Art et jeu vidéo. Donc notre ami le président Trip Hawkins tenait absolument à ce que les boîtes de jeux aient exactement le format des boîtes de CD. Parce que pour lui, ça rapprochait le jeu vidéo d'un autre média artistique, etc.
D'où les boîtes de Mega Drive et les cartouches de Mega Drive, parce que je vois pas le rapport en fait.
Là, c'était largement avant les Mega Drive, c'était sur Commodore 64.
Ouais, mais c'était à l'époque.
À l'époque, tout le monde y avait un format et lui voulait un format différent qui rapprochait en fait le format des boîtes de jeux de celui des CD. Qui était exactement le même en fait.
Caf veut réagir.
Non, mais le CD c'était le truc super novateur, mais j'ai plus la date de création du CD là. D'un coup, tu m'as enduit de doute.
Ben on est à peu près dans ces périodes là, néanmoins.
Bah c'est en même temps.
Cela dit, effectivement, il y avait la cartouche Mega Drive, Electronic Arts était même solide.
Oui, mais on est vachement avant la Mega Drive quand même.
Oui, mais bien sûr, on est avant, mais dans ce format comme il disait, ce format bien propriétaire, il y avait aussi donc les cartouches Mega Drive.
Mais ça n'a rien à voir parce que les boîtes étaient imposées par les constructeurs à l'époque. Donc Sega imposait son format de boîte à la base. Et après, Electronic Arts, si je me rappelle bien, était un des rares à avoir des cartouches qui n'étaient pas les mêmes parce qu'ils voulaient passer par leurs usines, etc.
C'était même le seul à être autorisé.
Il y avait Codemasters aussi. Il y avait Codemasters qui fabriquait ses propres cartouches, notamment sur... le petit jeu de caisse
micro machine
pour pouvoir jouer à 4, rappelle-toi qu'ils fabriquaient des cartouches eux-mêmes dans leur ferme en Angleterre avec les 4 ports manettes pour pouvoir
dans leur ferme en Angleterre.
Exact, c'était une ferme.
Je sais pas si les usines étaient dans la ferme Codemasters.
Moi je me souviens juste de la petite languette blanche sur le côté. Voilà.
À la ferme. Bon,
enfin,
à quelle ferme ?
Tout ça pour dire... À la ferme, ta gueule. Alors, tout ça pour dire quand même qu'aujourd'hui, on a une société tentaculaire qui regroupe des milliers d'employés. On est, Julo, à combien à peu près ?
7900, je crois.
Voilà, 7900. D'ailleurs, il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, il y a 6% des employés qui ont été licenciés.
Bisous.
Voilà, il y a quand même, il faut savoir, plus de 4000 de ces employés qui sont uniquement là pour le développement. Donc, c'est quand même assez colossal. Ça représente une part non négligeable. Mais voilà, en 82, c'était une petite société qui néanmoins faisait du chiffre
d'affaires. Qui a vite grandi quand même.
Qui a vite grandi et qui avait surtout des nobles idéaux. Et effectivement, aujourd'hui, même ici, hein, sur Gameblog, dans les podcasts, on est souvent à parler du côté artistique, mettre en valeur les créateurs, les Kojima, les... Voilà. Et
rappeler...
bah, finalement, il le faisait il y a déjà 20 ans.
Voilà, je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est que ce mec venait de chez Apple quand même.
Ouais.
Voilà.
Et que justement...
expliquant peut-être cela, cette différence.
Et moi, je voudrais rappeler qu'il a fait la 3DO après. Donc,
bah justement, voilà.
Certes, mais
pardon,
ça, on va le dire
pardon,
tout à l'heure.
Hein,
tout le monde a le droit de se planter. On fait tous des erreurs. C'est même vrai. Moi, j'en ai fait.
Il a continué
surtout toi, en fait. Ouais.
Alors justement, Trip Hawkins, après un petit peu de quelques jeux sur ordinateur et puis l'arrivée des consoles, quitte Electronic Arts pour fonder effectivement et fabriquer la 3DO. Console, là, je crois, plus de $700 à l'époque. C'était la plus chère de l'humanité.
Ouais. Elle était en import à 8000 francs.
Voilà.
8000 francs chez nous, je vous fais même pas la trade en euros, c'est une insulte.
Un joli versus face à la Neo Geo, mais elle n'a pas connu le même succès d'estime en tout cas.
Non.
Loin de là. Et donc c'est Larry Probst qui prend la relève. Lui, à la base, pareil, première optique, il ne voulait pas de jeu mature, pas de jeu violent, pas de jeu pour les entre guillemets adultes. Et donc c'est lui vraiment qui a poussé le côté sportif, le côté Electronic Arts Sport et beaucoup de licences. Il sera, on le verra un petit peu plus tard, revenu un petit peu sur tous ses propos et toutes ses directions par la suite.
Longtemps après. Hein,
longtemps après.
Il est rentré en 84 dans la boîte.
Ouais.
Et le premier jeu aim rated, donc pour adultes,
mature,
il date de 99. C'était System Shock 2. Voilà.
Ouais, donc pendant très longtemps, effectivement, ça n'a pas été la panacée. On va parler un petit peu jeu avant de reprendre le cours de l'histoire d'Electronic Arts, parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses. On va parler bien sûr aussi des problèmes qu'a rencontré la société avec Peter Molyneux, par exemple, avec Origin. On va parler aussi des blogs qui avaient été créés, hein, Electronic Arts Pause, en 2004, hein, lorsqu'il y avait eu tous les problèmes avec les heures de travail hallucinantes, plus de 100 heures par semaine, même si, bon, certains autour de cette table à repasser les dépassent allègrement.
C'est sur les millions de dollars que ça chie.
Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas de blog à part le nôtre pour s'en plaindre. Donc voilà. Donc on parlera bien évidemment de tout ça et aussi du Electronic Arts 2.0, hein, qui date de 2006 et qui nous donne aujourd'hui l'occasion de jouer à Dead Space ou Mirror's Edge. Mais avant ça, on va parler un petit peu, bien sûr, des titres porte-étendard, des jeux qui ont fait toute la différence à une époque, des jeux qui ont rendu Electronic Arts milliardaire. Bien évidemment, j'ai envie de parler de tous les Electronic Arts sports avec les FIFA, les NBA Live. J'ai aussi envie de parler des Sims, de Medal of Honor, Need for Speed, SSX, Def Jam, Burnout, Road Rash, Crysis même, Command & Conquer, et de tout aussi l'explosion des achats, puisque Electronic Arts, tu le disais à juste titre, Julo, c'est du développement certes, mais aussi beaucoup de rachats avec des grosses sociétés.
Ah, il y a eu une grosse période
qui sont tombées
en fait,
dans l'escarcelle d'Electronic Arts.
Ouais, tout à fait. Ils ont racheté énormément de studios et quelque part, c'est ça qui leur a évalué un peu ce surnom de Evil Empire à l'époque, qui était parce qu'on leur reprochait en fait d'absorber, si tu veux, les licences, de vouloir absorber les licences plus que les équipes et de dissoudre un peu tout ça après dans leur tambouille. Et
que quand ça se passait pas très bien, si les licences marchaient moins bien, etc.
Bah on zappait la licence, on zappait, rien à foutre.
On zappait déjà les développeurs. On leur gardait les licences de préférence, puis on continuait sans eux.
Vous voulez surtout les formater au moule de production, les faire travailler avec des producteurs qui étaient extérieurs à leur boîte d'origine et leur faire faire ces fameux horaires de crunch time. On appelle ça le crunch time en développement, c'est quand effectivement tu dois rendre une version. C'est une étape du développement et tu as régulièrement des moments, des bouclages, quoi, en fait.
Ça leur a donné cette réputation un peu de grand méchant loup du côté des développeurs. Et puis après, tout le truc dans les autres critiques qu'on a fait à cette énorme boîte, c'était du côté des joueurs et donc du public, cet essorage de licences chaque année. Parce que c'est quand même eux qui ont inventé ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un truc courant, mais c'est Electronic Arts qui a inventé le jeu mis à jour et revendu chaque année. Ils l'ont juste inventé, ce truc. Et quelque part, on s'en est quand même plaint très très longtemps, quoi.
Angel,
aujourd'hui, ça continue alors qu'on peut faire des mises à jour des jeux sur des disques durs, machin, etc. Et ça continuera.
Ouais. Bah, FIFA pour commencer.
Bah voilà.
Alors justement, FIFA, c'est en 94, hein, je crois que la licence...
Non, c'était en 93 et il a été appelé FIFA 94 parce que bon, il est sorti fin 93 parce que voilà, comme tu
sais. Mais il s'appelait comment ?
Il s'appelait FIFA World Soccer, quelque chose comme ça, je crois.
Ouais, mais alors. Enfin, par contre, en contrepartie, pour parler de FIFA, tu vois, c'est Electronic Arts, c'est quand même les premiers à avoir fait super confiance, enfin, avoir vu dans le foot un marché à prendre. Avant, finalement. Personne sortait vraiment de jeux de foot. En tout cas, de vrais jeux de foot.
Kickoff, Sensible Soccer.
Non, mais personne sortait de. Ouais, non, mais d'accord, sur c'était console, une... surtout. Sur console.
Amiga, il a raison, Angèle.
Atari ST.
Mais non, attends, non, je suis désolé. FIFA, quand le premier FIFA est sorti sur console, sur Mega Drive,
c'était une méga claque.
C'était une méga claque. Et
oui,
c'était les premiers. Parce que le foot, faut pas oublier que c'est surtout européen. Et les consoles, c'était soit japonais, enfin, donc, soit asiatique. Soit américain, et finalement personne mettait beaucoup de billets dans le soccer.
C'était surtout que eux sont arrivés avec la première vue pseudo 3D alors qu'on était en 2D. Qu'on
non, alors
à l'époque,
attends, moi je t'assure, donc j'avais la Mega Drive, j'avais la Master System, j'avais Super Nintendo et tout le bazar, et vraiment pendant longtemps j'ai attendu un bon jeu de foot, tu vois, avec lequel je pourrais jouer avec mes frangins et tout et m'éclater, et franchement le premier à être arrivé c'était FIFA.
Mais parce que t'es un con, parce que Kickoff c'était bien avant et
ouais,
c'était
mais enfin,
fantastique
ça a juste rien à... ouais c'est génial Kickoff,
mais, attends,
mais ça a juste rien à voir dans l'approche quoi. Après,
bah, là,
c'est plus c'est comme si tu disais le premier jeu de ping-pong c'est pas Bidule là, de Rockstar, je sais pas, c'est Pong quoi.
Ce que je veux dire c'est qu'on peut pas dire que FIFA c'est le premier machin, un truc où on jouait avec ses potes. Moi je faisais des soirées Kickoff.
Non mais c'est pas ça, c'était l'approche un peu. C'était mais ils ont surtout... de la simulation. Quand
voilà,
non,
parce que ce que je veux dire, c'est que en termes de gameplay, c'était vachement rétrograde par rapport à Kickoff, où la balle, je rappelle, ne collait pas au pied du footballeur. Mais c'est surtout que en termes de visualisation, ils t'ont mis sur le terrain.
Graphiquement,
ça n'avait rien à voir.
Ils avaient mis de l'oseille.
Non, mais c'est ce que je veux dire.
Ils avaient mis de l'oseille.
Graphiquement, ça n'avait rien à voir.
Et c'était donc la première fois, tu vois, que quelqu'un mettait de l'oseille pour un jeu de foot ou soccer.
Ah bah Dino Dini, il avait fait le truc tout seul sur Kickoff, forcément. Mais à l'époque, on faisait ces jeux dans le garage les trois quarts du temps, tu vois. Donc bon.
Mais c'est vrai qu'effectivement,
FIFA est quand même précurseur.
On voit, bah en tout cas, FIFA, il est très important dans le sens où, et c'est là où on va couper la poire en deux avant que vous commenciez à vous taper. FIFA, c'est le premier à avoir cette approche très mercantile du sport avec les maillots qui respectaient les vraies couleurs, parce qu'effectivement, Kickoff, on n'était pas vraiment
c'est
dans.
C'est les seuls qui ont eu le blé pour effectivement acheter la licence.
Acheter la licence, effectivement. Il y avait les bruits du stade fortement, il y avait les célébrations. Enfin, effectivement. On avait à l'époque vraiment l'impression d'être dans le terrain, sur le terrain, et c'est effectivement à partir de ce moment qu'ils ont commencé les réactualisations annuelles pour apporter toujours plus, finalement pas trop, puisqu'à l'époque on n'était pas vraiment encore dans le délire simulation, hein, mais plus de nouvelles équipes, un peu plus d'ajouts graphiques.
En fait, c'est Angel. Pour être beaucoup plus terre à terre qu'on peut l'être, machin, c'est les premiers à avoir vu un vrai business et une vraie source de fric. En fait, donc quitte à dépenser de la thune. Tu vois, enfin, à dépenser de la thune en achetant les licences libres FIFA, en sachant qu'elle allait rapporter plus parce que l'Europe c'était un marché à prendre et que vendre un jeu estampillé FIFA plutôt de qualité pour l'époque, ça pouvait rapporter plein de blé quoi.
Non mais les autres l'avaient vu aussi, mais pas avec les mêmes moyens de base, parce que les kick-off, il y a eu trois extensions qui sont sorties qui étaient vraiment là pour récupérer de la thune. Sensible Soccer, je crois que si on fait le tour des versions, il y a bien des mecs qui ont bien compris que le développement multiplateforme,
ouais,
ça rappelait ça.
Mais enfin,
non,
mais
aussi,
tu vois,
Sensible
Soccer s'appelle Soccer.
Ouais.
Tu vois, c'est pas fondamentalement, c'est pas destiné aux Européens. Tu
mais
vois,
c'est ce que je viens de dire. Mais ça reste un bah attends, c'est pas t'entends ce que tu viens de dire?
Si, Sensible Soccer.
Enfin, qui a fait Sensible Soccer? C'est une boîte anglaise,
vraiment...
mais c'est pas grave.
Non mais d'accord, mais oui, non mais à ce moment-là tu l'appelles pas le soccer, tu l'appelles football, hein. Je te rappelle que même en Angleterre on appelle ça le football.
Sensible Soccer, je sais pas, ils l'ont appelé comme ça parce que peut-être qu'ils voulaient le vendre aux États-Unis, peut-être qu'ils se sont dit qu'il y avait un marché.
Ouais. Bon, on va changer parce que je vous sens. C'est pire qu'un FIFA PES.
Mais non, mais en plus, le premier FIFA, il est pas réputé pour son gameplay, tu vois. Donc,
il était monstrueux.
Non, il a surtout impressionné par la visualisation de l'action.
Ah non, moi j'ai adoré le gameplay.
C'est complètement.
Cela dit, c'est un des premiers bons jeux sur 3DO, je crois, en plus.
C'est possible.
Par contre, la version 3DO, c'est une des plus belles. Enfin, d'ailleurs, c'était même la plus belle du moment et de loin.
Ben ouais, mais c'est drôle puisque finalement, on trouve Hawkins,
c'est peut-être l'un des rares jeux qui était pas mal.
Rod Rash est le jeu qui a fait acheter des 3DO à plein d'inconscients.
Bon, alors justement, on va parler un peu des grands titres. On va pas se cantonner à FIFA, bien sûr, hein, ce serait réducteur. Je rappelle quand même que dans son histoire, hein, Electronic Arts, on aime, on n'aime pas, on a apprécié, on a pu apprécier, on a critiqué. C'est quand même plus de 700 récompenses mondiales de titres exclusifs, de titres de meilleurs jeux de l'année, etc. 700 récompenses, ça commence à poser un petit peu le développeur quand même, l'éditeur aussi. Parlons un petit peu des licences majeures développées, et en tout cas conçues sous l'égide
guide d'Electronic Arts. Des Sims à FIFA, en parlant de Medal of Honor, Need for Speed, et j'en passe. Road Rush.
Il y a eu Desert Strike aussi.
Hein. Desert Strike, oui, voilà. Oui, oui. Voilà. Qui veut commencer un peu à parler on va passer rapidement hein, sur chacun de ces titres-là. Julo.
L'un des plus vieux, effectivement. Ouais, enfin, ouais. L'un des plus vieux, Desert Strike, c'est pas le plus vieux, mais il y a eu Populous avant. Ouais,
alors, ça, c'était Bullfrog et c'était Molineux, justement. Mm.
Mais qui était donc rattaché, édité par Electronic Arts.
Ouais. Skater Die aussi.
Qui a racheté Bullfrog aussi.
Ouais. On reviendra tout à l'heure hein, sur la polémique qui a eu lieu entre Molineux et Electronic Arts, puisqu'il y a eu scission. Il est parti. Parlons un peu des jeux pour l'instant.
Bah, Desert Strike, c'était énorme, sans déconner. À l'époque, moi, je me rappelle, et j'avais choqué tout le monde autour de moi, tous les adultes qui voyaient à quoi je jouais. Ils étaient, mais. Halluciné.
Alors, on rappelle un peu. Et,
c'était
et
la guerre
et
du golf.
Voilà. Ouais, Angel.
Et c'était vachement bien. Donc, tu dirigeais un hélico. Et, voilà. Donc, tu faisais des missions en Irak.
Voilà. C'était jeu de guerre, quoi, comme on en fait aujourd'hui, mais un peu, évidemment, graphiquement. Et c'était plutôt, pour l'époque.
3D isométrique.
Pour l'époque. Attention, parce qu'il faut en parler, c'était réaliste.
Ah bah ça déchirait.
Franchement, voilà. Ça déchirait.
Et c'était mortel. Ouais,
ouais mais dans tous les sens du terme. Mais justement, est-ce que c'est pas dur. Un nouveau signe, une fois de plus, de, on va dire, du pragmatisme économique d'Electronic Arts, et qui est un peu sa marque de fabrique aussi, c'est de savoir faire des titres là où on sait que ça va marcher, plaire au plus grand nombre, épouser les tendances. C'était la guerre d'Irak, ils sortent un jeu et ça a cartonné.
Je pense qu'ils ont toujours su faire les deux parce que finalement, regarde Road Rash qui sort à côté. Je sais pas, il y a peut-être eu des faits divers sur des mecs qui tuaient des gens en moto à l'époque, mais c'était, tu vois, il y avait quand même un aspect créa. Évidemment, sur Desert Strike, une sorte d'opportunisme.
Oui, surtout que derrière, ils ont fait Soviet Strike.
Oui, mais attention, le gameplay suivait.
Jungle Strike.
Mais le gameplay suivait. C'était pas non plus. C'était pas totalement putassier.
Putain, okay,
c'était un
dur,
peu putassier, hein. mais
c'était un peu choquant même.
Ouais, c'était même un peu choquant, mais c'était un bon jeu. Mais d'un point de vue du gameplay, ça suivait quoi. Franchement, bon, moi je suis le premier à gueuler sur des trucs comme ça, mais si tout le monde faisait pareil maintenant, le joueur lambda, ça emporterait.
Alors attendez, ça m'intéresse quand même juste là. Après, on revient vraiment sur les jeux, mais puisqu'on parle du gameplay, et j'entends presque dans les propos un peu comme si Electronic Arts aujourd'hui c'est moins dans le gameplay ou quoi que ce soit. Finalement, Electronic Arts, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué pour ce côté absolument numéro 1 qui écrase les autres. On va dire même limite les premiers touchés, c'est finalement un peu les développeurs qui devaient subir les cadences de travail, les pressions au niveau de l'éditeur. Mais finalement, en termes de joueurs, Electronic Arts a sorti quand même des grands jeux dans l'absolu avec des gameplays toujours assez bien affinés. Je mets FIFA de côté parce qu'après on aime, on n'aime pas, c'est un style arcade ou pas, mais même dans son registre, c'était un bon jeu. Hein. Raon, tu voulais prendre la parole. Je crois même que sur Metacritic, c'est l'une des sociétés qui a les meilleurs scores.
Juste derrière Nintendo.
Voilà, juste derrière Nintendo. Donc c'est assez quand même.
C'est vrai que Electronic Arts, dans notre tronche à tous, même s'ils ont abusé sur plein de trucs, c'est quand même un signe de qualité toujours. Ouais.
Mais ça, ce que je voulais dire, c'est un petit peu comme Capcom qui a aussi cette double facette de on essore nos licences, mais qui aussi est capable de sortir des trucs de l'espace. Il y a un petit peu ça chez Electronic Arts aussi.
Angel,
alors moi j'ai un exemple tout con, mais vraiment super con et plutôt récent. Enfin, récent, ça dépend. Mais le premier Buffy, donc l'adaptation de Buffy.
Oh là là, sur Xbox ?
Ouais. Ouais. Tout le monde était persuadé que ça allait être de la merde.
Ah non, il était bien.
Et donc c'était sur Xbox. Et franchement, voilà, c'était Buffy. Et il y avait vachement d'idées.
Mais toi, t'aimes beaucoup Buffy aussi.
Au-delà de la licence,
c'est vraiment si bon jeu.
Non, mais c'est pour ça. Au-delà de la licence, franchement, il y avait des vraies idées de gameplay. D'ailleurs, le deuxième, c'était Vivendi qui l'avait fait. C'était Vivendi qui l'éditait. Et là, par contre, c'était vraiment de la merde. Mais le premier Buffy sur Xbox était plus qu'au correct.
Il y a même eu des bons James Bond.
Ouais.
Par Electronic Arts.
Voilà, exactement. Donc, enfin, non, c'était. Il y avait.
Quand même eux qui ont édité des jeux type déjà Populous. Ok, bon, ça n'existait pas à l'époque, il n'y avait rien d'autre d'équivalent que ça. D'autres jeux Bullfrog par la suite, des Syndicate, des Dungeon Keeper par exemple, ou des jeux vraiment qui sont uniques, quoi. Les Sims, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, toute la série des Sims, c'est quand même.
Les Sims, maintenant, ça paraît évident, mais à l'époque, il fallait oser quand même.
Ah bah complètement.
Donc ils ont quand même.
Mais justement, c'est ça qui m'intéresse.
Il y a vraiment deux facettes complètement différentes.
Voilà, et je serais même tenté de dire, au-delà même de ces deux facettes, pour le joueur finalement, est-ce que le joueur est en mesure de un peu critiquer Electronic Arts ou finalement pas tant que ça?
Je pense que le truc qui reste dans la tête des gens, c'est cette mise à jour permanente, cette on te force à la dépense.
T'es pas obligé de chaque année acheter un nouveau jeu.
Tout est pour te donner envie en tout cas.
On te revend du FIFA, etc. Ils l'ont fait avec Battlefield. Battlefield, quand ils sont arrivés, c'était dans toute la série des Battlefield, c'est un truc qui était quand même assez novateur parce que c'était la première fois que tu avais des jeux de combat comme ça en ligne avec des avions, des tanks, des machins, des véhicules de la mort où c'était super beau. Mais bon, à chaque fois, après, c'est Battlefield machin, Battlefield 2, Battlefield 21 bidule, Battlefield dans la... Ils te le déclinent à toutes les sauces et en fait jusqu'à l'écœurement. Et sur plein de licences, tu as ce genre de choses qui finit par...
Il y a vraiment qui sans micro, rend... effectivement, parle de Need for Speed.
Bah ouais, parce que Need for Speed, c'était très décalé. Maintenant, c'est genre un tous les ans. Quoi.
Ouais.
C'est fatigant. Je pense que dans la psyché des gens, c'est juste fatigant. En fait.
Angel.
Et en fait, effectivement, c'est toujours le même schéma, à savoir donc une mise à jour régulière tous les ans ou tous les deux ans maximum, jusqu'à l'écœurement. Et à ce moment-là, les mecs se rendent compte et ils renouvellent le truc. Tu vois, et c'est souvent comme ça, hein. Enfin, donc ils l'ont fait avec FIFA.
Par exemple, je pense à Harry Potter, qui était une licence qui a été plutôt bien traitée par Electronic Arts aussi. Electronic Arts, finalement, a été l'un des premiers à...
Seigneur des Anneaux aussi.
Seigneur des Anneaux a essayé d'avoir une vraie approche de l'adaptation de films en jeux vidéo. Ça a été très longtemps une horreur, une sorte de bain de sang ludique. Et il y a eu des vrais efforts de faire. Hein.
Ouais, alors déjà, d'une part, pour revenir vite fait sur l'aspect essorage comme ça, et on sort de la licence à mort, ce qui est pénible aussi pour beaucoup de joueurs, c'est que finalement, ils ont aussi, malheureusement, inspiré d'autres éditeurs à faire pareil, parce que ça marchait. Et que donc, tu vas prendre, je sais pas, du Burnout, par exemple.
Konami.
Voilà, bref, les autres, le marché a dû s'adapter finalement à ce pouvoir éditorial qu'avait Electronic Arts, parce qu'il faut être capable quand même de sortir un jeu par an tout le temps, même s'il évolue pas forcément toujours beaucoup, faut pouvoir le produire. Donc,
c'est ce qu'a fait aujourd'hui Activision avec Call of Duty, où ils mettent une équipe qui fait
un
épisode pendant que les
et donc c'est un peu facile pour les joueurs de voir en Electronic Arts le point maléfique de l'origine de ce truc là et si c'est une tendance qui fatigue les joueurs, bah c'est un peu Electronic Arts responsable parce que c'est eux qui ont commencé par ça.
C'est pour ça qu'on était très contents aussi à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez. Alors déjà, non, juste un truc, vous avez pas beaucoup testé de jeux de sport d'Electronic Arts à l'époque dans Pad et tout, mais c'était une horreur parce que justement il fallait à chaque fois reparler du truc, et puis finalement on disait à chaque fois la même chose, si vous avez su de l'année dernière, c'est pas essentiel, nanana. Et donc je vous
dis quelque
chose dont je me souviens absolument pas. Merde. Ok, j'ai oublié.
J'ai envie de dire, c'était très très intéressant.
Alors je peux t'aider, ouais, mais donc sur FIFA, c'est exactement ce qui s'est passé jusqu'à donc il y a deux ans où ils ont rebondi, ils ont mis.
Voilà, c'est ça que j'allais dire. Voilà, j'ai poursuivi mon idée. Donc on avait une certaine jubilation intérieure à avoir poussé PES comme ça parce qu'il le méritait et à ce qu'il soit passé devant dans les ventes et à ce que au final, quand même 3 ou 4 ans après. Electronic Arts commence à consulter un peu les journalistes et tout le monde pour se dire merde, on s'est fait griller, qu'est-ce qui se passe, et on jubilait un peu là-dessus, quoi, parce qu'on était aussi des joueurs et on avait envie de stopper cette machine infernale.
Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement ils ont pris l'avis des joueurs, Angel. Ouais.
Et là justement en ce moment tu retrouves exactement le même schéma avec NBA, donc avec NBA 2K de Take-Two qui est en train de tout défoncer, qui est en train de mettre vraiment une vraie dose à Electronic Arts.
Depuis quelques temps.
Mais depuis quelques temps, jusqu'au jour, j'imagine, enfin tu vois, là je fais pas non plus Madame Soleil, mais j'imagine où Electronic Arts va en avoir marre, où ils vont ouvrir les vannes, où ils vont dire voilà, il y a tous les dollars que vous voulez, et on va faire mieux qu'en face, et peut-être qu'ils y arriveront.
Julo, tu veux encore réagir?
Ouais, non,
est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu es sûr de ce que tu vas dire?
Ouais.
Bon, nickel.
Non, ça me fait penser aussi alors, à cette histoire, parce que.
Attention, Sega, il a oublié.
Non, c'est pas ça. Sega avait sorti en fait un ESPN machin qui s'était
qui était bonne.
Un gros succès critique,
très bonne,
et commercial, ouais. Qui a pris énormément de parts de marché donc à la série NFL Madden d'Electronic Arts.
Bon, on rappelle pourquoi hein, quand même. C'est parce que sur Dreamcast, Electronic Arts ne participait pas à l'épisode
exactement.
Dreamcast.
Hein. Et il se trouve qu'en plus, le jeu était vraiment bon, le jeu de Sega. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ça, c'est côté un peu aussi machine infernale et tout. Et ben ils ont juste sécurisé, ils ont racheté toutes les licences en exclusivité avec ESPN l'année d'après. Ils ont sécurisé toute la NFL, le collège, le machin, etc. Ils ont sécurisé en mettant du pognon sur la table et en asséchant du coup Sega pour reprendre de la part de marché, etc.
La terre brûlée, quoi.
Donc voilà, c'est ça aussi Electronic Arts.
Bah Electronic Arts, sa force, c'est justement d'avoir réussi à devenir gigantesque et donc incontournable, une force d'édition, bien sûr, une force de développement.
Si t'as les moyens de faire ça
en termes de business,
c'est super idiot de pas le faire.
Voilà, c'est une machine de guerre, t'as voulu une déontologie, c'est un peu dégueulasse. Enfin... Moralement, on va
et
dire.
Ça,
moralement,
c'est
un peu dégueulasse.
Pour l'image des joueurs.
Mais d'un point de vue business, voilà quoi.
L'image qu'a les joueurs, c'est aussi important pour eux. Parce que quelque part, je pense que ça compte aussi pour eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après Donc je crois que c'est en 2006 que ça a été annoncé qu'ils allaient développer de nouvelles IP, etc.
On reviendra dessus. Ouais, on reviendra dessus tout à l'heure.
Vachement important.
Leur image compte.
Dans cette image un peu négative, c'est que on parlait tout à l'heure des adaptations type Seigneur des Anneaux, etc. Il y avait aussi beaucoup de joueurs qui reprochaient à Electronic Arts de prendre une optique très hollywoodienne, on va dire. C'est un petit peu jeu popcorn, vraiment grand public, pas forcément très profond ou très riche.
C'est beau,
pour
mais
adapter ces licences-là, voilà, c'est-à-dire très bien réalisé, qui en colle un peu plein la gueule, mais qui finalement est ludiquement pas très intéressant.
Ils ont aussi beaucoup bossé sur les interfaces, ce qui nous avait vachement impressionné au départ et qui a été un peu aussi. C'est une marque de fabrique maintenant des jeux Electronic Arts, c'est les interfaces qui déchirent. Les interfaces, je veux dire, les menus et tout ça. Quoi.
Ouais.
Et puis l'une des forces aussi d'être leader dans un domaine, c'est que justement, en plus, on est consulté énormément par les constructeurs. On sait qu'Electronic Arts fait directement partie du développement lors d'une nouvelle console. Microsoft, Sony et Nintendo, essentiellement Microsoft et Sony d'ailleurs, consultent beaucoup Electronic Arts pour leur demander avoir un petit peu de feedback sur leur nouvelle machine. Et on le voit à chaque fois qu'une nouvelle... Dans les démos, voilà, à chaque fois qu'une nouvelle console est présentée, bah, tout de suite, on a le président d'Electronic Arts qui est là avec une petite démo, qu'elle soit technique ou d'un nouveau jeu. Et c'est très important. Et ça... L'une
même
des raisons
l'iPhone,
du
non, y avait ça.
Non mais l'une des raisons de aussi du de l'insuccès de la Dreamcast, c'est de pas réussir de ne pas
sûr,
avoir réussi à avoir Electronic Arts.
Ça a été un coup, un gros coup, quoi.
Ouais, complètement. Alors juste, j'aimerais pour qu'on reste dans les jeux avant de continuer l'histoire d'Electronic Arts et des moments un petit peu plus complexes, puis une certaine relève récente, qu'on parle chacun un peu des jeux Electronic Arts qui nous ont le plus marqué.
Qui commence?
J'ai envie de dire CAF. Qui te demande le micro avec insistance.
Non, mais en fait, tout à l'heure, on en parlait, mais moi, un des jeux qui m'a le plus éclaté à l'époque, c'était Road Rash, en fait. Parce que j'y jouais chez un ami, parce que je n'ai pas acheté la 3DO. Mais Road Rash sur 3DO, pour moi, ça a été un des premiers jeux où je me suis dit, tiens, ces mecs savent faire des trucs, en fait. J'avais vraiment pas accroché, parce que déjà, moi, les jeux de sport, à part Kiko, justement, d'où notre prise de mec de tout à l'heure, j'en avais un peu rien à foutre. Mais en plus, c'est des jeux qui sont très, très marché américain. J'aime pas le basket, j'aime pas Maiden, je m'en fous complètement. Donc ça, c'est vite vu, quoi.
On t'en voudra pas.
Voilà. En France, on m'en voudra pas. Mais aux États-Unis, on me jette des cailloux, je pense.
Ah, c'est le jeu l'un des jeux les plus vendus chaque année au monde, alors qu'il se vend qu'aux États-Unis.
Exactement, c'est une vache à lait, ce truc-là. Mais en revanche, Road Rash, mais j'avais trouvé ça extraordinaire, quoi, parce que la musique, en plus...
On rappelle un peu pour ceux qui... Il y en a certains qui ne l'auraient peut-être pas connu.
En fait, c'était donc une simulation, un jeu d'arcade où on a une moto, et en gros, on se bastonne pour gagner la course, on peut mettre des coups de poing au mec, etc.
Et notamment des coups de chaîne.
Et des coups de chaîne.
Un MotorStorm avant l'heure, quoi, en fait, en 2D, à l'époque, quoi.
En 2D avec un rendu un peu photo sur les sprites et tout, qui était vachement bien foutu, et avec une bande son de la mort. Moi, j'ai découvert Soundgarden en jouant à ce jeu là et je faisais
ça aussi. C'est une marque de fabrique d'Electronic Arts encore aujourd'hui.
C'était
les BO déchirent.
Oui, mais attention, c'était les premiers, parce que 3DO c'était du CD, etc. Le début, tu vois. Et tout de suite, ils sont
finalement
mis sur ce
le côté
créneau,
un
quoi.
Peu artistique, une fois de plus,
artistique, et puis
de ramener
temps,
des artistes en tout cas,
en se disant tiens, on va faire un truc qui va marquer le jour. On est sorti du bip bip et du machin, en se disant tiens, on va leur mettre du gros Soundgarden qui tâche. En plus, moi je connaissais pas, j'ai super accroché. Je me suis dit, tiens, c'est quoi cette bande-son? Ce jeu m'a vraiment éclaté, quoi.
Angel qui dodeline de la tête avec insistance.
Enfin, tu vois, Electronic Arts, ça reste quand même le business pour le business. Tu vois, c'est aussi un peu pour ça qu'ils se créent leur propre label musical eux-mêmes pour pouvoir signer des groupes pas trop chers et pouvoir les intégrer dans la BO de leur propre jeu. Et comme ça coûte pas cher, ils sont pas obligés d'acheter des trucs ailleurs, sauf pour Rock Band, parce que Rock Band oblige à choper des croûtes, tu vois. Mais sinon,
Ils ont quand même toujours eu des super gros artistes. Hein.
Attends, ils ont
Jamiroquai.
Parce que j'allais dire, Need for Speed, ils avaient toujours eu des bandes son de Killer aussi.
Robbie Williams, même si je dis pas que c'est un grand artiste, mais à l'époque quand ils l'ont eu, il coûtait très très cher. Hein. voilà, il y a finalement aujourd'hui il y a Soprano qui mine de rien se fait un petit nom dans le rap français et qui était chez PES. Ils l'ont rapatrié sur FIFA.
Oh, non mais ok, ça fait un, mais tous les autres qui sont dans la BO. Tu vois, mais tous les autres, attends, tu vois, parce que c'est ça l'idée. Donc il y a un morceau qui est super bon, ou deux morceaux qui sont super bons.
Il y a eu Blur.
Sur les 40. Sur les 40.
Ah, bah bien sûr.
C'est pour ça. Et donc, d'où l'idée de la création de label qui permet de signer des groupes que tu ne paieras pas à d'autres labels extérieurs. Et donc, c'est toujours ça de prix, tu vois, c'est toujours ça d'économiser, quoi. Après, t'en signes deux ou trois des plutôt gros, tu vois, comme Blur, comme Jamiroquai,
c'est toujours pareil,
comme
c'est
Soprano, comme machin, voilà, comme une tête d'affiche. Et tout le reste, finalement, c'est de l'économie.
Non, mais ils font pas Non, mais attends,
l'idée de base, c'est de dire que c'est
pas
le business pour le business.
Electronic Arts.
Je pense que ça leur coûte pas moins cher que Konami, par exemple, quand ils font bip bip et bip avec leur musique pourrie.
Mais bien sûr que si, tu payes plus de royalties au label.
Mais
tu payes les artistes quand même qui sont présents dans ton jeu, quoi.
Non, mais d'accord, mais tu payes plus de royalties au label, donc c'est forcément moins cher à partir
bah
du
non, c'est
où,
pas forcément moins cher que de dépenser de l'argent pour quelqu'un qui veut faire de la musique pour ton jeu.
À partir du moment où tu supprimes un intermédiaire, c'est forcément moins cher.
Bon, on va pas partir là-dessus.
Mais Angel,
enfin, quand
crois,
tu veux faire une BO de jeu.
Je crois que t'as juste oublié un truc, c'est qu'Electronic Arts fait pas d'édition de musique pure, donc il y a un moment où ils dépensent de l'argent pour acheter des groupes. C'est pas eux qui font des coureurs de talent, donc de toute façon, c'est pas eux qui vont acheter des mecs.
Il faut bien une musique pour un jeu, donc il faut bien un moment payer quelqu'un.
Bah voilà, donc de toute façon, c'est. Mais bon.
Tu payes plus ou moins cher en fonction de la notoriété de l'artiste.
En tout cas, ce qu'ils ont bien compris, c'est que derrière, il y avait une rentabilité possible, parce que effectivement, les mecs se sont dit, tiens, si on faisait des bandes son de jeu, etc.
Bon, les gars,
avec les Japonais.
Allez, on a eu Road Rash avec CAF, Julo.
Moi j'ai plusieurs titres
alors citer
rapidement. Même époque, Need for Speed, parce que franchement Need for Speed aussi sur 3DO notamment, c'était juste une tuerie quoi. Il y avait une vue intérieure avec le volant, tu te faisais chasser par les keufs et tout, enfin, c'était super nouveau, c'était bien fait et c'était cool quoi, c'était juste génial à jouer. Donc Need for Speed. Et puis parce qu'il y a eu aussi y a des bons remakes, même si maintenant la machine s'est mise en route et que ça devient relou. autre
titre. T'as pas aimé Need for Speed Carbon à base de tuning et quoi que ce soit.
Alors pas du tout.
D'accord. Voilà. Étonnant. Je comprends pas.
Notamment celui-là. Ouais.
Oh, oui.
Et j'ai envie de parler évidemment de FIFA. Moi, quand j'ai en parlé.
Je crois qu'on a FIFA, fait le tour aussi un peu à la fois.
Avant qu'on devienne dingue de PES, c'est vrai que juste, mais c'était génialissime. Et alors donc le titre beaucoup plus récent qui date de l'année 2000 précisément.
Ah merde, je crois que tu vas me voler le mien.
SSX.
C'est trois lettres. Voilà.
SSX parce que alors moi j'étais surtout à ce moment-là un dingue de snowboard avec Monsieur Santoni à la rédaction, n'est-ce pas? on partait ensemble au sport d'hiver et tout. Enfin bref, on s'en fout. On adorait le snowboard et on attendait vachement des jeux de snowboard qu'on trouvait un peu relou, etc. Et surtout de l'aspect un peu simu et qui puisse nous donner des bonnes sensations dans la poudre.
La peur,
j'ai envie de rajouter juste une lettre, un chiffre
simu.
1080.
Voilà, 1080, mais c'était
avait ouvert la voie du passé,
ça avait ouvert la voie.
De manière, c'était de la course vraiment.
On avait envie d'avoir un truc vraiment sensationnel. C'était les débuts de la PS2. Et donc ils annoncent SSX. Et là, il y a ce côté un peu complètement
arcade fou, débridé,
avec des couleurs de partout, des sauts de ouf
malade. Mais techniquement,
et je me rappelle m'être dit.
Ça va être
j'en ai rien à foutre j'ai pas envie de jouer à ça, ça va être n'importe quoi, etc. Et bah le SSX est arrivé à la rédac, on a commencé à y jouer et juste on a halluciné tellement c'était fun, tellement
c'est la première fois
que
j'ai joué à un jeu snowboard de
tellement magnifique. C'était classe et tellement ça te procurait des sensations énormes avec un gameplay mais turbo arcade et donc ça nous avait mis cette petite claque dans la gueule du
mais
genre,
j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas symptomatique justement d'Electronic Arts, c'est que le premier il est monstrueux, il est fantastique, il a un peu marqué une époque hein, quelque part pour les jeux
tous,
snowboard
il
y en a pas eu tant que ça derrière en plus. Pourtant ils en ont fait des suites et ces suites personne s'en souvient.
Ouais.
Pas forcément
qu'on s'en
souvient
pas, mais
non mais elles
forcément moins marquantes peut-être.
Elles sont même bonnes, elles sont toujours bonnes les suites. C'est ça le truc énervant, c'est que tu dis bah oui, le jeu il est super et tout mais bon.
Si t'as pas acheté la version d'avant.
Ouais.
Sinon ça reste quand même assez limité quoi.
Mais il y avait aussi comme dirait Angèle, pour replacer les choses dans leur contexte
historique
de l'époque. Comme disait Julo, c'était super beau et il faut quand même se souvenir que c'était un des tout premiers jeux de la PS2 qui à l'époque avait beaucoup beaucoup de mal à produire quelque chose de graphiquement valable, surtout à côté de
Oh tu rigoles, il y avait Smuggler's Run
à cette époque et Fantavision et c'était les seuls aussi je crois à l'époque Electronic Arts à avoir très en amont créé une cellule de recherche et développement exprès pour cette console, pour faire un moteur qui puisse utiliser sur ces licences-là, dont SSX a été le premier produit.
Premier jeu big également.
Et c'était donc à l'époque, à tous les niveaux, un jeu hyper marquant. Quoi.
Carrément. Est-ce que tu as fait le tour, Julo, des jeux Electronic Arts qui t'ont marqué ?
Je pourrais en dire d'autres, mais c'est mes trois plus marquants.
Voilà. D'accord. On passe à Angel ?
Ouais.
Alors, moi, pas FIFA enfin,
non, moi j'en ai deux. Alors, le premier pour le côté nostalgique, NHL.
Ah oui, c'est vrai.
Sur Mega Drive.
La seule fois où j'ai joué,
c'est vrai
qu'il
était juste
monstrueux.
Voilà, il était fantastique, NHL sur Mega Drive.
Ah,
je connaissais absolument rien au hockey. Mais franchement,
c'est
voilà.
C'est ça que t'as appris peut-être, non ?
Ouais,
c'est moi aussi l'un des jeux Mega Drive auquel j'ai
plus
joué.
Il était énormissime, comme quoi, tu vois, ils ont beau prendre une licence, ils le font bien.
Non, mais c'est vrai.
Tu vois, parce que c'était une licence.
Pas évidente pour des Français,
ouais. Voilà, en plus,
c'est le premier.
Ouais, c'est le premier. Enfin, en tout cas, moi, c'est le premier auquel je jouais. Si, c'était le premier sur Mega Drive, ouais. Et ouais, il était mortel. Donc voilà, donc ça, c'est pour le coup
NHL. Ok.
Et après, moi, dans les jeux, je trouve qui réfléchissent bien la politique d'Electronic Arts du moment, tu peux prendre Skate.
C'est vrai.
Skate qui est là pour contrecarrer Tony Hawk. Genre, les mecs, en gros, ils ont vu qu'en face, Activision se faisait plein de blé avec Tony Hawk.
Et tourner en rond aussi. Hein.
Ouais, voilà.
Et tourner gravement.
Ils se sont dit, il y a quand même pas mal de sphères, il y a quand même pas mal de pognon à se faire avec du skate. Et si on en faisait un nous-mêmes, mais au lieu de faire un truc n'importe comment, ils se sont dit, on va faire du pognon avec du skate, on va vendre des jeux de skate, mais on va le faire bien. On va offrir un jeu qui serait une vraie alternative à Tony Hawk.
Voilà, il fallait faire une alternative.
Ce serait une vraie alternative à Tony Hawk et ce serait pas une copie, ce serait un truc différent, un truc, une approche différente qui arrivera à rameuter du monde. Et ils l'ont fait, et une fois de plus, plutôt bien.
Ouais, de manière assez talentueuse, ouais. Rahan.
Et d'ailleurs, c'est finalement une décision assez couillue parce que quand t'as un marché qui est aussi trusté par une marque comme Tony Hawk que ça, y aller en frontal comme ça, même si tu t'appelles Electronic Arts et que t'as les moyens derrière, bah c'est quand même une prise de risque. Quoi.
Mais c'est pas une première non plus, puisqu'ils l'ont fait, et enfin en ce moment ils le font aussi, et c'est marrant parce que c'est aussi du côté d'Activision, mais le duel entre Guitar Hero et Rock Band. Et là, c'est.
Mais là aussi, ça
paraît
du lourd. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Mais quelque part, toutes Electronic Arts qui sont. On se dit quand même, quand, même Electronic Arts, on se dit s'attaquer à Tony Hawk, quand même c'est chaud, ça va être dur, etc. Ils l'ont bien fait. Rock Band, pareil.
Enfin, mais enfin, là,
c'est pas qu'une question de moyens.
Enfin, là, c'est quand même différent parce que c'est harmonique, c'est toujours la polémique. Les mecs du Guitar Hero, ils étaient pas d'accord, ils sont embrouillés, donc ils sont barrés, ils ont fait Rock Band à côté. Tu vois, enfin, c'est là pour Guitar Hero et Rock Band, c'est quand même un poil différent.
Oui, et puis il faut aussi rappeler que là, depuis tout à l'heure, on fait des tours de table en parlant des jeux qui nous ont marqué positivement. Donc forcément.
J'ai fait exprès d'éclipser les jeux tout récents, parce qu'on en parlera tout à l'heure.
Bien sûr. Mirror's Edge ou Dead Space, etc. arrive tout à en fin de podcast. C'est un autre jeu, Angel, ou c'est tout qui t'aura marqué?
J'ai fait le C'était mieux avant, j'ai fait le moderne, donc je pense que
très bien.
Le tour.
Quand je dis marqué, c'est pas forcément positif. Hein. Vous pouvez avoir d'accord. Un jeu qui vous a halluciné de médiocrité, ou je ne sais quoi. Rahan, justement. Est-ce que on...
Non, là, en médiocrité, non, j'en ai pas en tête.
Mais il y en a pas tant que ça, en fait.
Y a pas de
j'ai l'impression,
médiocre.
Moi.
Il y en a forcément. Tu vois, ils en ont produit tellement qu'il faudrait juste rechercher un petit peu dans notre tête, mais je pense qu'on peut en trouver. Mais si je devais citer des jeux Electronic Arts qui m'ont marqué, je suis obligé de citer l'essentiel des productions. Bullfrog, donc c'est édité par Electronic Arts, mais c'est pas vraiment
Dungeon Keeper.
Ouais, enfin donc Dungeon Keeper, Populous, etc. Peut-être un des premiers FPS qui m'est marqué tant que ça sur console, qui est Medal of Honor, le tout premier. D'abord parce que en termes de boulot de documentation historique, c'était quand même assez rare encore à l'époque. C'est une fois de plus Electronic Arts qui a, avec cette licence-là, lancé tous ces jeux sur la Seconde Guerre mondiale.
Tout ça, c'est de leur faute.
Tout ça, c'est de leur faute.
C'était fait en collaboration avec Spielberg aussi, parce que Spielberg est finalement assez proche d'Electronic Arts.
Oui, enfin, en tous les cas, aujourd'hui, très récemment, notamment.
Mais il avait supervisé, ouais.
Parce que le premier.
Ouais, le premier, ouais.
Et à l'époque, techniquement, pour de la PS1, en termes d'IA, d'animation, etc., c'était juste incroyable. C'était incroyable. Et
puis, de réaction des soldats,
voilà, les casques qui volaient,
qui relançaient la grenade.
Et
l'ambiance était géniale. Quoi.
C'était
juste après le soldat Ryan, non ? C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ouais, c'était...
c'est pour ça que je dis Spielberg. C'est que le soldat Ryan a tellement marqué que Electronic Arts a voulu en faire, entre guillemets, son adaptation.
Et c'était ça,
avec Spielberg.
Vraiment fabuleusement réussi. Quoi. Sur une console qui était bonne, hein, mais. Pour donner cette qualité de spectacle à l'époque, c'était fort. Quoi.
Moi, je suis quand même juste outré, quand même, je reviens juste deux secondes, qu'Angel n'ait pas parlé des Sims, jeu sur lequel il a dû perdre à peu près 400 ans de sa vie, et qui est le jeu aujourd'hui le plus vendu sur PC, mais à tellement des années-lumière du reste.
Non, mais le Sims, c'est juste c'est une idée de génie, comme tu peux en avoir, je pense, une fois dans ta vie. Quoi. C'est un jeu fond d'écran. Alors au-delà de tout le gameplay, etc., le succès du jeu tient du fait que c'est un jeu fond d'écran. C'est-à-dire tu peux y jouer juste 30 secondes au boulot et passer à autre chose. Et c'est pas grave.
Et c'est un des jeux aussi précurseur qui a ramené énormément de filles dans le jeu vidéo.
Et donc du coup, voilà, comme c'est un jeu fond d'écran, il y a plein de filles qui s'y ont mis parce que tu pouvais faire la déco de ton appart.
Bah oui. Parce que tu joues à la
combien d'extensions ils ont sorti.
C'était une sorte de poupée Barbie, mais une plus grande échelle, on va dire.
Non mais voilà, mais en raison, voilà. Une fois de plus, les Sims, il n'y a pas les Sims 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tous les ans, mais par contre, le nombre d'extensions, c'est colossal.
Là, je crois que c'est juste colossal. Ah ouais, c'est surréaliste. Ouais.
Ah mais ils ont tout fait, les Sims. Ils ont eu des amis, ils ont eu des animaux, ils ont fait de la magie, ils ont tout fait.
Voilà, ça, c'est effectivement, c'est du Electronic Arts tout craché, quoi.
Là, par contre, pour les Sims, tu vois, je te dirais, c'est juste des add-ons. Tu vois, t'es pas obligé de les acheter.
Un FIFA ou un NHL ou 2008, 9, 10, 15, 22, t'es pas obligé.
FIFA, t'as vachement plus envie.
Ce sont des standalone.
Je suis d'accord.
Ouais, mais t'as quand même un Sims 2.
T'as un Sims 2 mais qui arrive 4 ans après le premier Sims.
Ah bah, t'as un c'est Sims 3, mal,
t'as un Sims 3 qui arrive.
Attends, 4 ans après, mais, les 10 ouais, extensions attends, après le Sims 1.
Non mais d'accord, mais les extensions, non, mais... t'es pas obligé de les acheter.
Excusez-moi, mais ouais. C'est tout simplement sur PC, vieux. Donc sur PC, on pouvait faire des add-ons, sur console, on pouvait pas. Quoi.
Non mais d'accord, mais tu vois l'extension, enfin tu vois...
Alors attention, parce que là je le sens le mouliner, là, parce que la phrase du jeu est tellement juste.
Non mais tu vois, le jeu, une fois que t'as acheté ton standalone machin, t'es pas obligé d'acheter les Sims vos os.
Ah, parce que c'est sûr que quand t'as acheté ton FIFA 99, t'es obligé d'acheter le 2000.
Mais bien sûr que ouais, vu que t'as les mises à jour de la licence et tout ça.
Non, c'est vrai, on reviendra dessus tout à l'heure.
Tu vois le PES parce qu'il y a des changements de gameplay, mais là les extensions ça change pas de gameplay, ça introduit juste par exemple des animaux, voilà. Ou alors les Sims vont au zoo, ben voilà, ils vont au zoo, ils vont à la plage, ben voilà, il y a une plage.
Enfin, tu sais, aujourd'hui avec les disques durs et tout, tu pourrais rajouter les nouvelles licences, mettre à jour le truc et rajouter du gameplay en 2-2, c'est de code, ça fait 100 mégas sur un truc.
Je suis pas ici pour parler.
Et tu payes 15 euros plutôt que 70.
Des FIFA 2008, 2009, 2010.
Non, mais c'est pas FIFA, c'est les réactualisations sportives en général d'Electronic
Arts. Ouais, mais très bien, mais enfin le sport. Mais je suis ici pour défendre Sims et donc les multiples add-ons qui sont sortis.
Angel vient de perdre tellement de points de darkitude.
Mais t'es pas obligé de l'acheter. C'est comme enfin.
Je crois qu'on a compris.
Plein d'exemples.
Je crois vraiment qu'on a compris.
Et je veux m'arrêter.
Stop. C'est bon, on a compris, aussi, les Sims, c'est toute la vie d'Angel.
Il est le sosie du créateur des Sims, et qu'en tant que tel, il est obligé de défendre son propre jeu.
C'est vrai. On était rendu à toi juste avant cette petite interruption, Raon. Est-ce que tu aurais un autre titre qui t'aurait marqué
Alors, donc en dehors des Bullfrog et de Medal of Honor, là tout de suite maintenant...
Non. Pas forcément. Eh bien, très bien. Alors, puisque justement, j'ai envie de dire transition logique, on parlait de Bullfrog, et on parlait donc de Peter Molyneux et Electronic Arts. On sait que ça s'est pas si bien fini en tout cas, et qu'il y a eu des moments où Electronic Arts a mis la pression sur Bullfrog, accélération des cadences de développement, etc., qui ont fait qu'il y a eu une petite scission et que Peter Molyneux est parti.
Il y avait aussi Magic Carpet, ça faisait partie du.
Oui, bah, c'est Bullfrog aussi qu'il a fait.
Ouais, c'est Bullfrog aussi. Mais Electronic Arts, je connais pas exactement tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais Electronic Arts pressait beaucoup pour avoir des suites. Que eux ne voulaient pas faire quoi. Pour certains jeux, ils estimaient que il y avait pas, c'était pas leur truc quoi. Ils voulaient pas faire d'extension ou autre chose comme ça parce que par exemple Power Manger, qui était un jeu qui est sorti après Populous, il y a eu un certain nombre d'extensions, etc. Donc certaines étaient justifiées et d'autres, Molyneux trouvait qu'il n'avait plus la liberté éditoriale.
Et puis il aime pas être pressé, Molyneux.
Non, c'est pas vraiment.
Comment s'appelle le jeu que je viens de citer, bordel? Carpet, Magic Carpet.
Oui, Magic Carpet.
Et bah il a été, ils l'ont obligé à le rusher comme un malade. Et vous vous souvenez, hein, c'était juste blindé de bugs le jeu.
Le second.
Non, c'était le premier. Hein.
Le premier.
Je me rappelais même pas qu'il y avait un second.
Mais ça restait un jeu qui était très impressionnant quand même à l'époque. Parce que c'était il n'y avait pas beaucoup de gens en 3D et à l'époque c'était une espèce de pseudo 3D. Je ne me souviens plus exactement.
Oui,
c'était du voxel, oui, c'est ça exactement. Enfin bon, bref.
Oui, c'est ce que moi j'ai eu le même truc.
Attends, c'était si mal, Outcast. C'était un jeu super intéressant.
Ouais, c'était pas si mal que ça.
Bref, parenthèse fermée. Il s'est ensuite barré pour fonder Lionhead. Il a quand même maintenu un contrat d'édition pendant quelques temps avec Electronic Arts, qui a dû éditer notamment Black and White, si je dis pas d'idiot, si.
Oui.
Avant de se faire racheter par Microsoft. Et aujourd'hui, Molyneux est très content de la relation qu'il a avec Microsoft et estime que justement le fait d'avoir été racheté, de ne plus être indépendant, parce qu'il l'était avant d'être tombé dans le giron d'Electronic Arts. Et avant de retomber dans le giron de Microsoft, le fait de ne plus être indépendant aujourd'hui avec cette formule-là lui permet de faire beaucoup de choses parce qu'il a des budgets, il a des machins, il a des aides, etc. Et qu'il dit lui qu'il est plus indépendant aujourd'hui comme ça, donc bon, tant mieux pour lui.
Tant mieux. En tout cas, visiblement, ça ne s'est pas fait au moment d'Electronic Arts. Autre problème aussi avec un développeur, et là je vais vraiment avoir besoin de vous les gars, Origin.
C'est Ultima.
Voilà, c'est l'histoire de Ultima et c'est encore un grand nom du jeu vidéo.
Pas seulement les Strike Commander et Wing Commander.
Les Wing Commander, les Strike Commander, les Ultima. Donc, Origin, c'était un peu un des trucs quand nous on était tous sur nos Amiga, nos Atari ST. On a un peu tous passé sur PC à l'époque.
À cause d'Origin.
92-93, à cause d'Origin. Hein. Tous les jeux qu'on fait switcher en masse les joueurs sur PC en 92-93, c'est Ultima Underworld. Un des premiers jeux de rôle avec de la 3D, des trucs monstrueux pour l'époque. Les Wing Commander, surtout le 2, parce que le 1, bon voilà, il a ouvert perds la voix.
Marc Hamill.
Marc Hamill, si tu nous écoutes. Et
respect.
Respect.
Faudrait qu'on ait Mister P là.
Exact. En revanche, le jeu, donc tout cela était vachement bien. Et ce qui s'est passé, bah, c'est un peu comme d'habitude, c'est qu'ils ont racheté Origin et ils l'ont vidé de sa substance. Je pense qu'Electronic Arts, c'est une grosse machine. Après, il y a des gens qui sont dépêchés avec des petites cravates et des chemises blanches pour aller gérer les studios. Mmh. Et puis, parfois, ça se passe bien. Parfois, ça se passe mal. Là, ça ne s'est pas très bien passé. Et puis, je pense que maintenant, avec le recul, on sait que Lord British, c'est pas le mec le plus facile à gérer du monde. Non. Il va faire un peu le cosmonaute pendant que sa boîte vire des personnes par poignée. Avec NCSoft, ça ne se passe pas bien. Donc maintenant on sait que le mec bon voilà, il a fait les Ultima dans son garage quand il était jeune, c'était super, il a fait le 1, le 2, le 3, le 3. Lui il a été jusqu'au 7 avant, je crois qu'il a été jusqu'au 6, jusqu'au 7 avant le rachat par
le 7 je crois, et le 8 c'était celui qui était en 3D
Arts.
De la main.
Non mais en fait
Electronic Arts a sorti des add-ons en fait.
Oui non mais avant même qu'Electronic Arts arrive, il y a quand même des mecs qui avaient bien compris que le principe des suites c'était quelque chose qui marchait très très bien. Et en revanche derrière Electronic Arts ça a été très peu visionnaire sur certains produits. Origin a sorti Ultima Online qui était le premier MMO un peu, c'était pas grand public, c'était très hardcore, mais c'était un des premiers MMO qui a vraiment marché, parce que le premier techniquement s'en est un autre.
Qui proposait des choses qu'aucun autre n'a proposé avant Perpète.
Bah, d'ailleurs, qu'il y en a d'ailleurs qui n'ont toujours pas proposé d'ailleurs.
Tu te faisais laté par des lapins.
C'est vrai.
Aussi. Mais c'était quelque chose de super novateur, etc. Ils n'ont pas du tout poussé dans cette direction, et ils ont plutôt voulu fermer le truc. Ça existe toujours, hein. Il y a encore des gens qui jouent Ultima Online. Faut le savoir.
Il y a eu, je sais pas combien de réactualisations.
Il y a eu une actualisation du moteur 3D l'année dernière. Enfin non, au début de l'année d'ailleurs. Donc il y a vraiment, enfin il y a toujours une activité. C'est un truc de fou. Mais par contre, Electronic Arts, ça a mis des années avant de piger qu'il y avait un business, qu'il y avait quelque chose à faire. Mmh. Et Origin finalement a périclité. Ils ont laissé tout le monde partir. Et ça, c'est un des problèmes, c'est que la boîte est très très mal perçue par plein de gens. Et quand ils rachètent certaines entités, les mecs les voient arriver en disant, eux, ça va pas être possible. Ils ont eu le problème avec Criterion. Criterion, il y a plein de gens qui sont partis, c'était les burn-out.
Les burn-out, ouais.
Criterion, ils faisaient en plus des moteurs 3D, entre autres pour un petit jeu qui s'appelle PES.
PES, ouais.
Et quand ils sont arrivés pour acheter Criterion, il y a plein de gens qui sont partis en se disant « Oulala, Electronic Arts, tout ça, ça va être chiant. »
T'as vu la réaction de Take-Two au moment de la rumeur de rachat d'Electronic Arts ?
Bah voilà.
Et c'était juste... Tout mais pas ça, quoi, en gros. C'était ça.
J'ai l'impression que Electronic Arts, c'est un peu le Microsoft du logiciel, quoi. C'est un peu, c'est
j'aurais
gigantesque,
analogie,
c'est gargantuesque.
J'aurais fait une autre analogie commençant par F, mais peu importe. Il y a un autre truc, du coup, qu'il faut bien voir aussi dans ce que tu disais par rapport à Origin, etc. C'est que historiquement, finalement, rétrospectivement, Electronic Arts a toujours été faible pour tout ce qui est RPG, donc le jeu de rôle, que ce soit en ligne ou hors ligne. Ils ont racheté très récemment BioWare et Pandemic, développeurs canadiens, et leurs déclarations les plus récentes font état de ça. C'est-à-dire que voilà, pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de chance sur ce segment du marché, et le MMO, où ils sont relativement absents, ils ont annoncé tout récemment.
Bah, c'est Warhammer. Warhammer Online, c'est Electronic Arts.
Ouais, et le MMO, donc aussi, qui est développé par BioWare, là, avec la licence Star Wars. Ouais.
Donc là, ils y arrivent, mais t'imagines, ça fait 10 ans.
Ils sont en retard.
Mais en fait, pour le pire, c'est qu'ils étaient en avance. Ouais. Ils avaient le premier produit extraordinaire.
Ultima, c'était
il y avait,
ça.
Il y a eu un Ultima Online 2 dans les cartons, qui était prévu, etc. Ils ont flingué le projet. Il y a des mecs en costard-cravate qui n'ont rien compris à ce que c'était qu'un MMO, à mon avis, qui ont fait non, là, là, comprends pas, business model, il est trop bizarre. Et ils ont flingué une poule aux œufs d'or potentielle, si tu veux, alors qu'ils auraient bien pu pousser ça, mais bien, bien avant tout.
Ils auraient peut-être pu être les Blizzard, en fait, de ce.
Exactement. Je pense qu'il y a.
Là, ils ont raté le coche.
Ils ont raté le coche sur ce truc-là, quoi.
Alors, justement, on parlait de projets qui se sont plus ou moins bien finis avec Origin, Peter Molyneux qui finalement est parti reprendre son indépendance avant de basculer du côté de Microsoft. On sait que donc parmi les principaux développeurs appartenant et ayant été rachetés par Electronic Arts, on peut citer, vous l'avez fait, hein, BioWare, DICE qui travaille donc sur Mirror's Edge, Pandemic, Black Box qui fait plutôt du FPS, Maxis pour les Sims, Criterion avec la série des Burnout. Donc, c'est quand même assez consistant. Mais il y a eu aussi des problèmes, hein. Je repars en 2004, on l'avait évoqué tout à l'heure, avec un blog qui avait été ouvert, ça s'appelait EAS Pause, et donc en fait c'était tu peux resituer un petit peu les choses, Julo?
Sur un live journal, je crois. C'était un live journal, ouais, tout à fait, avec des mecs qui avaient lâché l'info, quoi, en disant que Electronic Arts les faisait bosser 100 heures par semaine, et pas seulement dans les périodes de fin de développement qui sont traditionnellement rushées,
les fameux
crunch time de
voilà, tu peux redire une fois
crunch time.
Pour sortir les milestones.
Ouais, c'est extraordinaire.
Voilà, donc en dehors des crunch time, c'est-à-dire ils étaient en crunch time tout le temps. Et
donc crunch time, c'est jour et nuit, week-end, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Voilà. Tu bosses.
Donc il y a eu ce fameux quoi, blog, tu disais Live Journal,
ouais, c'est pareil.
Ça a fait grand bruit et puis alors ça a vachement entaché l'image d'Electronic Arts évidemment, qui depuis, je crois, paye ses petites fourmis à l'heure.
C'est ça, ouais. Voilà. Ça a changé pas mal de choses, mais apparemment.
Parce que toutes les heures supplémentaires n'étaient pas payées. Etc.
Ouais, bah en gros, il y a eu une class action, donc
un
mouvement collectif qui a récolté quand même 15 millions de dollars.
Plus.
Non, non, 15 millions de dollars. Enfin, moi, c'est les chiffres que j'ai eus.
Moi, j'ai lu des centaines de millions de dollars.
Ah bon ?
Ouais. Ouais, parce que justement, ils sont très, 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 très nombreux quand même.
Dans mais tous les cas...
En tout cas, ça a fonctionné pour
dans
les...
Dans tous les cas, l'idée, c'était de se faire effectivement payer les heures supplémentaires non payées. Quoi. Mm-hmm. Voilà.
Ouais. Mais il faut aussi peut-être remettre un petit peu les pendules à l'heure. C'est pas un problème qui est spécifique à Electronic Arts. Il y a d'autres sociétés qui ont vécu ces problèmes-là.
Ubisoft, hein, par exemple.
Notamment Ubisoft, effectivement, qui avait eu à une époque aussi ce phénomène du « bon, on en a marre, on va
avec
faire un blog ».
Avec un blog qui avait été ouvert aussi. Hein.
Voilà, donc c'est malheureusement un des côtés sombres du développement de jeux vidéo, c'est qu'il
faut être boulot.
Faut pas avoir peur du boulot, voilà.
Non, même quand on fait un site internet.
En plus, il y a un truc qui ressort de ça, c'est qu'on cite vachement de noms de boîtes et tout avec Electronic Arts, mais c'est une boîte finalement, mais relativement peu par rapport à certains concurrents, c'est créateur en avant. C'est-à-dire que tu bosses chez Electronic Arts, mais t'as pas de figure, t'as pas de nom, tu vois.
Ou à part Will Wright, peut-être. Ouais.
Mais ouais, mais bah Will, parce qu'ils l'ont racheté, et celui-là, c'est un des rares qui est resté. Mais Molineux, il est parti. Et en fait, tu te retrouves pas, je sais pas, qui est le mec qui s'est dit, bon, voilà, est-ce qu'il y a des, bon, peut-être qu'il n'y a pas qu'un seul mec, que c'était une équipe, mais je sais pas, sur les Battlefield, t'as pas de nom qui ressort. Les Medal of Honor, t'en sais rien. FIFA, qui est les putains de mecs qui a géré l'équipe pour réussir à faire de jeu ce qu'il est aujourd'hui. Donc t'as pas de starification finalement des développeurs, alors qu'ils avaient commencé par faire ça dans les années 80.
C'est surtout, ça change d'une année sur l'autre, hein, les producteurs. C'est, oui, tu vois, c'est parce le producteur Kleenex un peu.
C'est vrai, exactement, mais c'est interchangeable. Et ça, c'est un truc que tu retrouves moins dans certaines autres boîtes où, je sais pas, Ubi va te mettre en avant vachement Michel Ancel.
Effectivement,
Ancel,
c'est surtout
ça,
contraire à ce qu'était le postulat de base de Electronic Arts, de sa création.
Exactement.
Alors, ce qui est quand même assez intéressant, justement, là, on parlait de ES Paul's Blog, c'est de, pour vous confirmer qu'effectivement, c'est bien 15 millions de dollars qui ont été redistribués lors de cette class action. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Erin Hoffman, qui tenait ce blog, a évoqué là récemment, en mai 2008, que justement, suite à tous ces mouvements, en 4 ans, beaucoup de choses s'étaient rassainies et que désormais, les conditions de travail avaient été étaient de bien meilleure qualité au sein d'Electronic Arts.
Moi, j'ai mes indics en interne, ils n'ont pas l'air malheureux.
Ouais, ouais. Non, mais apparemment, cas, visiblement, ça s'est bien passé. Oui. Ça fait prendre conscience de pas mal de choses.
Attention, faut bien voir que là, au-delà, même quand tu bosses chez Electronic Arts, donc je parle pas chez DICE, etc., Electronic Arts, c'est un nombre d'entités explosées sur les États-Unis, le Canada, l'Europe, hallucinant.
Ah oui, ils sont partout.
Et qu'après, c'est un peu comme dans toutes les boîtes, tu peux être dans une filiale où tu as un manager qui est un sale connard et qui fait une vie d'enfer à tout le monde. Donc après, c'est pas la faute de la boîte, quoi.
Alors après, très rapidement aussi, il y a eu pas mal de rumeurs lorsque Electronic Arts a quand même pris 20% de participation sur Ubisoft, on en parlait il y a quelques instants, en se disant de la part d'Ubi qu'il pouvait du coup être une proie désormais facile et que quelque part avoir... parmi l'un de ses pires concurrents au sein même de son actionnariat.
L'eau est dans la bergerie.
C'est un petit peu l'idée. Voilà, au final, pour l'instant, maintenant, ça fait plusieurs années que c'est le cas. Electronic Arts n'a pas augmenté sa prise de participation et n'a pas lancé d'OPA. Alors peut-être que ça ne s'est retardé, on ne sait pas.
Mais c'était peut-être pour sauvegarder leur image. Ça se trouve, c'était leur intention première. Et comme ça a fait tellement de bruit.
Ouais.
Et
en tout cas, ça fait exploser l'action Ubisoft. Hein. Voilà, ça l'a fait grimper.
Une fois de plus, tout le monde a commencé à dire Electronic Arts, ils bouffent tout le monde. Peut-être qu'ils ont voulu un peu. Attendre quoi, tout simplement.
Mais maintenant, avec le merge Activision Blizzard, peut-être que ils vont avoir
ça. Ce serait un bon plan Ubisoft. Hein.
Ah, surtout que de la part d'Ubisoft, au niveau de la direction, il y a trois hypothèses qui sont envisagées. C'est soit on se bat pour éviter une OPA, soit on se fait racheter par quelqu'un d'autre, soit effectivement on merge, on s'associe à Electronic Arts.
Cela dit, cette vaste période de rachat, d'absorption de studio, etc., ils changent un peu de politique quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus.
Ils digèrent, mais
voilà. Je pense qu'ils ont besoin d'une digestion. Ils l'ont clairement dit, et maintenant ce qu'ils veulent, c'est passer un peu à autre chose, se réorganiser, parce que c'est aussi, ils sont en pleine restructuration, Electronic Arts. Hein,
Puis pour une fois, ils ont perdu de l'argent aussi récemment.
C'était quoi en 2000... La première fois, c'était en 2005, je crois.
Ouais.
Et effectivement, là récemment.
Là récemment, c'est des centaines de millions de.
Et donc, ils sont en restructuration, ils ont tout mis sous 4 labels. Maintenant, c'est plus que 3 parce que finalement, la nana qui dirige le casual s'est barrée, donc ça devient Casual Sims maintenant.
C'est Sims and Casual Label.
Voilà. Donc ces trois labels, c'est des studios partout dans le monde. Enfin, ils ont eu un problème de société comme ça, trop tentaculaire. Ils sont en train vraiment de se réorganiser, quoi.
Alors, ce qui est intéressant, justement, une fois de plus, c'est de voir justement ce changement d'attitude d'Electronic Arts. On parlait tout à l'heure de société un peu diabolique. Le terme que tu employais, Julo, qui est le terme que beaucoup de développeurs utilisaient.
Evil Empire. Voilà. À l'époque, on.
Enfin, l'Empire diabolique.
À l'époque, on parlait des communistes. Hein. Enfin, tu vois, c'était la Russie qu'on caractérisait Evil Empire.
Enfin bon, en gros, ça c'était un petit peu le mot qui se passait chez les développeurs. John Carmack en faisait partie. Et depuis le début 2008, en fait, avec sous la houlette un peu de John Ricciello, j'arrive pas à prononcer son
nom.
Ricciello, qui est le nouveau patron d'Electronic Arts, qui lui a fait vraiment force d'annonce, plus d'autonomie aux développeurs. Et bien par exemple, John Carmack, le premier, enfin l'un des plus importants, en tout cas les plus grands porte-voix,
est revenu sur
ses propos, annonçant qu'Electronic Arts n'était plus le diable. John Carmack d'ailleurs, avec ID Software, qui maintenant va être édité sur ses prochains titres par Electronic Arts. Donc bon, on voit une sorte de changement. Depuis 2006, il y a le fameux Electronic Arts 2.0, et là, Raon, tu vas nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne, qui marque un petit peu l'avènement d'un, j'ai envie de dire, nouvel Electronic Arts, une nouvelle attitude, en tout cas dans la manière, un, de développer, et deux, de se comporter et du travail de l'image.
Ouais, évidemment, pour ceux qui seraient, je sais pas, qui seraient en prison depuis des années, 2.0, ça va être une référence au web 2.0, donc à une
plus participatif,
une nouvelle optique et un développement
plus proche du consommateur,
de ce que tu produis et ta cible. Et donc après, ce qu'ils veulent vraiment en dire, c'est une sorte d'appellation interne, c'est pour se dire voilà, on est en train de changer un truc, on change un petit peu notre vision, on veut créer plus de nouvelles licences et essayer d'aller à l'encontre de cette image que EA a quand même encore du mal à faire taire, quoi.
Et ça a été annoncé en 2006 et force est de constater aujourd'hui, fin 2008, que
maintenant sortent les résultats de cette qui sont les Dead Space, etc. Genre,
et Mirror's Edge.
Ouais, il rappelle ce terme de EA 2.0 dans les soirées d'inauguration de ces jeux.
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est à plusieurs titres. C'est un, cette prise de conscience de l'image un peu... racorni d'Electronic Arts. Donc déjà, un, c'est bien quand on est gros de pouvoir faire un peu son autocritique, ce qu'ils ont fait sur FIFA par exemple, mais ce qu'ils ont fait sur d'autres titres, à commencer même par leur propre société, de voir aujourd'hui qu'effectivement les résultats quelque part sont un petit peu là, puisque Dead Space, juste la surprise moi je trouve de cette fin d'année,
et Mirror's Edge,
jeu très hypé mais très intéressant, avec quelque chose de vraiment original. Dans ce Electronic Arts 2.0, il y a aussi une autre notion, c'est celle de faire des titres déclinés avec un large spectre. Ça veut dire, il y a le jeu, on le voit par exemple avec Dead Space, voilà, ça vit en dehors. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ça,
Ah bah, c'est très simple, et c'est certainement pas les seuls à avoir cette idée-là, parmi les gros, mais aussi parmi les petits. C'est-à-dire, comme on dépense énormément d'argent, de ressources humaines et créatives et de temps à créer certains univers.
À les faire connaître,
voilà,
etc.
À les formater, à leur donner une cohérence, etc. Pourquoi se contenter de ne faire qu'un ou quelques jeux dans cet univers, alors qu'on pourrait faire des BD, des films, des livres, voilà. Donc le principe est tout bête, hein, c'est que quand on crée un univers comme Dead Space, en l'occurrence, y a aussi un dessin animé, il y a aussi des comics, des webcomics.
Les scènes cinématiques de Mirror's Edge sont aussi en dessin animé. Alors, je ne sais pas si c'est un lien.
Je ne crois pas qu'ils aient prévu les sortir.
Je crois qu'il n'y a rien de prévu, mais bon, c'est facilement exploitable en tout cas.
Mais par exemple, le dessin animé de Dead Space,
parce que là, il y a un univers
sort en DVD et en Blu-ray. Voilà.
Ils ont utilisé les tout de Mirror's Edge, c'était du marketing bien ficelé, parce qu'en fait ils l'ont mis en avant sur le web, etc., pour faire monter le buzz sur le jeu. Donc après, ils n'ont pas fait un produit comme ils l'ont fait avec
Dead Space. Non, mais avec Mirror's Edge, ils ont vraiment créé un univers aussi.
Mais en France, c'est pas très connu, parce que ça n'a pas été très poussé, mais peu de gens savent que Dead Space, c'est un DVD, c'est un Blu-ray, avec un dessin animé dessus, qui est assez pourri d'ailleurs.
Voilà, pas non plus casser complètement la
barre,
parce
que l'initiative
terrible, est bonne, mais c'est
moi, j'avais juste vu le trailer du dessin animé.
C'est super moche.
Je l'ai vu en entier,
super mal.
C'était, ouais, disons, enfin,
visiblement, Raon l'a subi plus qu'autre chose.
Mirror's Edge est un plus gros potentiel dans les dessins animés en flash qu'ils ont fait pour le web que Dead Space.
Ça m'arrange justement de voir que le dessin animé Dead Space est tellement en deçà du jeu que le jeu il passe encore plus au-dessus.
Maintenant, moi, je suis impatient de voir ce que ça va donner.
Voilà.
Si Dead Space marche pas,
c'est là où je voulais en venir.
Si ils vont continuer à appuyer, si tu veux investir des moyens malgré tous les cols blancs dont on parlait tout à l'heure,
mais ils
vont
déjà
dire oh là là, attention, c'est dangereux.
Il y aurait
annoncé qu'ils feraient des suites. Et de toute façon, il y a aussi beaucoup de licences. Je pense le premier qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est God of War. Le premier n'a pas tout de suite très bien marché.
Il y a eu beaucoup de bouche à oreille.
Le deuxième est sorti.
Il y a eu beaucoup. Ça fait partie de ces jeux bouche à oreille, God of War.
Alors qu'il était extraordinaire, un peu comme Dead Space aujourd'hui. Ça met du temps à partir, mais je pense qu'ils s'y retrouveront parce que.
Bon, pour donner un petit ordre d'idée, hein, Fable en une semaine, la semaine de son lancement, Fable 2, hein, s'est vendu à 1 million d'exemplaires, ce qui peut être qualifié quand même d'un beau succès hein, pour un titre qui est en plus sorti que sur une seule plateforme, la Xbox 360. Dead Space depuis son lancement, maintenant qui est multi, maintenant qui. Quasiment un mois, s'est vendu à 700 000 exemplaires à peu près. Donc un petit peu en dessous de la barre du million. C'est pas un échec. Hein.
C'est pas mauvais.
C'est pas mauvais, mais c'est vrai que bon, c'est pas probablement peut-être pas à la hauteur des chiffres habituels d'Electronic Arts.
En première licence comme ça, il y en a c'est d'autres aussi qui ont fonctionné très fort. Quoi. Tu vois, un Gears of War par exemple, au départ, ça n'existe pas. C'était une nouvelle licence.
Bah, ça a cartonné tout de suite. Hein.
Le meilleur exemple, on parlait. Enfin, non, cela dit, je sais pas si c'est un très bon exemple. On parlait d'SSX tout à l'heure. Ouais. Mais bon, SSX, c'était aussi au tout début de la PS2, etc.
Il y avait pas assez de jeux.
Donc, mais c'est quand même une nouvelle IP qui est lancée quoi. Et ça a fait un carton monumental.
Alors justement, qu'est-ce que vous pensez un petit peu rapidement avant de conclure ce podcast de cette prise de risque d'Electronic Arts? Est-ce que vous pensez qu'elle a des chances de perdurer si par exemple Dead Space et Mirror's Edge ne marchaient pas plus que de raison? Et surtout, est-ce que vous pensez que ça va être une nouvelle vraie attitude ou c'est juste une passade?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça change l'image qu'on peut avoir d'Electronic Arts. Moi, en tout cas, dans ma tronche...
On est presque surpris. D'ailleurs, il y a des développeurs qui se sont exprimés à ce propos. Comme,
Par exemple, c'est une anecdote aussi, mais Inaba, le créateur d'Okami, entre autres, attendait certains jeux pour ce Noël, dont Mirror's Edge. Mm-hmm. Et l'un des commentaires qu'il fait à ce propos-là, c'est qu'il n'aurait jamais imaginé que Electronic Arts sortirait un jeu comme ça. Enfin, pour lui,
en voyant Mirror's Edge, il n'aurait jamais pu imaginer.
Il n'imaginait pas que Mirror's Edge pouvait être un jeu EA, quoi. Mm-hmm. Donc, effectivement, même si
c'est vrai que c'est surprenant.
Ouais. Mm-hmm.
Et puis voilà quoi, ça change leur image quoi.
C'est frais, ça fait moins américain, genre un peu burger, genre super classe, super beau, super machin, mais un peu vide de fond.
Ouais.
Là ça fait, je sais pas, il y a un petit truc aérien, aéré. Ouais. C'est pas Electronic Arts, c'est Electronic Arts, mais à la fois c'est complètement eux.
Space,
on parle aussi de Crysis, hein, il y a peu de temps, hein, qui était aussi édité.
À la base.
Non, bien sûr, mais c'est pas américain, DICE, me semble-t-il.
DICE, ils sont anglais, je crois.
Ils sont anglais.
Non,
ils sont même suédois.
C'est suédois ou danois, mais c'est pas anglais en
tout cas. C'est ça, ouais, voilà. Donc, quelque part, quel que soit le lieu, la nation du développeur, ils sont tous sous l'étiquette.
Ils le poussent en tous les cas.
C'est Electronic Arts.
Comment tu triches avec ton ordinateur sur les genoux.
Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette prise de risque?
Moi, je pense
que ce soit une bonne chose, oui, mais.
Je pense qu'ils n'ont pas le choix et ils ont les moyens de faire les deux, en fait. Ils ont les moyens d'assurer avec des suites et des machins comme ça, et ils ont les moyens de faire des Mirror's Edge et des Dead Space et des Mirror's Edge 2 après, quand ils auront installé le truc.
Pourquoi pas Mirror's Edge 2?
Mais je pense qu'ils ont. En face.
Le moment que c'est pas à tous les ans.
Tu m'étonnes. En face, ils vont avoir du Activision Blizzard pour l'artillerie lourde, ils vont avoir du Ubisoft qui fait aussi du lourd, mais qui se rate aussi. Hein. Et puis à côté de ça, il y a des mecs qui font leur propre truc, mais je pense à des Valve par exemple, avec lesquels ils ont des accords aussi pour des ventes de boîtes, etc. Mais finalement, on s'aperçoit que la prise de risque fonctionne, marche. Il y a des tout petits gars qu'on oublie, mais si je prends les mecs qui font Impulse, les gars de Stardock, bon, alors eux, c'est du indépendant, mais tu vois, leur petit jeu stratégie, ils en ont vendu 1 million d'exemplaires. Sans protection. Donc,
sous l'égide d'Electronic Arts ?
Non, sur la leur. Mais justement, Electronic Arts, ils voient un peu tout ce qui se passe sur le marché.
D'accord.
Et je pense qu'ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que tu ne peux pas non plus faire que des suites, que du réchauffé.
Et puis il y a Internet. Je veux dire, c'est quand même de plus en plus facile de s'informer sur des choses qui seraient complètement passées inaperçues avant, soit dans les jeux indépendants, soit des trucs avec des plus petits moyens qui sont juste malins. Quoi. Et donc, les gens savent qu'il y a des choses fraîches qui existent. Et ils sont peut-être plus exigeants. Je me demande s'il n'y a pas quand même l'influence aussi d'Ubisoft. Parce qu'on disait tout à l'heure qu'ils avaient pris 20% et tout ça. Donc ils surveillent quand même de très 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 près ce que fait Ubisoft. Et Ubisoft lance très régulièrement des nouvelles licences depuis quelques années. Bien avant qu'Electronic Arts s'y mette. Et je me demande, moi, quelque part, si c'est...
Et souvent avec succès, en tout cas de vente.
Assassin's Creed en premier chef.
Et je me demande si c'est pas aussi un petit peu à cause de ça. C'est-à-dire regarder quand même ce que fait la concurrence à côté et de se dire, bon, il serait peut-être temps que...
Que nous aussi, on arrive avec des licences nouvelles, fraîches, différentes. Angel, tu voulais souligner quelque chose ?
Bah, parce que, moi, je vois le mal partout. Pour moi, Electronic Arts, ils étaient juste, ils ont juste été victimes de leur immobilisme pendant des années et des années et des années. Au bout d'un moment, ils se réveillèrent.
Tout est calculé.
Et donc, ils sont à la recherche de nouvelles licences. Ouais. Les nouvelles licences, c'est Dead Space, c'est Mirror's Edge, c'est quelques autres trucs. Et une fois que ça marchera, une fois qu'ils tiendront leur nouvelle licence, là, ils seront repartis pour encore 5, 6, 7 ans, enfin, en tout cas, un nouveau cycle de nouveau immobilisme, on va dire. Mais voilà quoi.
Si alors, je vois beaucoup de personnes acquiescer de la tête, mais est-ce que c'est vraiment le cas, Cap ?
Mais je pense qu'il y a une partie, de vrai, et je ne serais pas étonné qu'ils le fassent. Mais en même temps, ils ont un panel de développeurs hallucinant. Et regarde, par exemple, Mirror's Edge chez DICE, c'est quand même pas les plus mauvais dans les gars qu'ils ont, etc. Qu'ils ont volontairement enlevé de leur licence traditionnelle en disant vous auriez pas des idées, vous qui avez quand même été super créatif. Et je pense qu'il y a vraiment cette recherche de allez les gars, on se bouge, on fait des choses. Et un peu comme Ubi le fait avec Ubi Montréal, qui est maintenant une usine incroyable pour sortir des trucs. Alors ils se ratent des fois, on est d'accord. Mais il y a quand même une volonté de faire quelque chose différent. Si je reprends un exemple récent avec Ubi, effectivement, bon, bah, voilà, Far Cry 2, je ne sais pas ce que ça va donner en termes de vente. Ils se sont ratés en termes de gameplay. Non, c'est le 2. Il me fait le 3, mais non, c'est le 2. Et ils se sont plantés peut-être sur certains aspects, mais il y a vraiment une recherche, il y a cette recherche de créativité en se disant tiens, on fait le 2, mais on va essayer de faire quelque chose de nouveau quand même. Donc je pense qu'ils vont tous un peu dans cette direction-là. Et effectivement, oui, c'est casse-gueule parce que les développeurs, c'est des humains et des fois, ils ont des idées, c'est des fausses bonnes idées. Ouais. Et puis après, quand tu l'as fait, il faut que la réalisation suive, etc.
Grand.
Et même s'ils mettent avec brio d'ailleurs leur logo IA sur toutes ces productions-là, avec réhabillé à chaque fois suivant l'univers du jeu, ce qui est fait avec beaucoup de classe et d'élégance. Mais
pourquoi tant de propos laudatifs ? Je ne comprends pas.
Il reste quand même. Récemment, ils mettent plus facilement en avant au lieu de réabsorber ça dans des labels avec marqué EA Big ou EA quelque chose, EA machin, ils mettent plus facilement en avant les noms de studios aussi.
Avec Crytek, c'est très en avant d'ailleurs.
Voilà. Ouais. Et DICE aussi, sur tous les trailers. Ouais.
Donc finalement, est-ce que c'est pas une sorte de retour aux sources comme dans les années 82 avec Tripokins qui voulait mettre en avant le côté artistique ?
Tu vois, quand tu nous demandais nos jeux, etc., j'ai même pas pensé. Les productions Bullfrog, évidemment que j'en aurais parlé, mais pour moi, c'est des jeux Peter Molyneux, pas des jeux EA, tu vois. Mais parce que c'est des jeux qui étaient déjà lancés, etc. Et je pense que là, ils sont en train de se dire depuis quelques années, c'est bon, voilà, les mecs qui font le business, il ne faut pas se mettre nous en avant, c'est les mecs qui font les jeux finalement.
Quoi qu'il arrive, il y aura quand même toujours le foutage de gueule de FIFA tous les ans.
Ah, mais bien sûr,
et puis on aura plein d'autres.
Et Need for Speed.
Les arts électroniques, enfin, d'artistique, plus que le nom, quoi, c'est quand même du business avant tout. Quoi.
Je ne suis pas d'accord. Tout ce qu'on parle, tu
vois, quand tu vois des news Electronic Arts, c'est 6% d'employés qui sont virés, c'est une cotation en bourse qui se casse la gueule.
Ça reste du business, mais dans le business, on peut essayer, en tout cas, insuffler l'artiste.
Non mais d'accord,
pas d'accord.
Une boîte qui s'appelle Electronic Arts et qui finalement ne vit que pour le business, ça reste quand même.
Mais non, je suis pas d'accord du tout.
C'est quand même pas Electronic Arts qui sortira un Shadow of the Colossus par hasard. Parce que le jour où ils feront un truc aussi couillu que ça, là ils seront arrivés
mais
au bout.
Excuse-moi, mais on en sait rien. Mais assez couillu. Quand même.
Oui, quand même. Mirror's Edge, moi je pense que c'est quand même plutôt couillu. Hein. Je suis pas persuadé du
moi,
tout.
Je trouve ça plutôt couillu.
Qu'on puisse se dire que ça peut cartonner en vente.
Faire un jeu sur le parcours, qui a un truc, qui cartonne.
Non.
Mais t'es fou, quoi.
Tout a été fait.
Mais t'es malade. Mais t'es complètement malade. Ça veut dire que la jouabilité, la vue, etc., ça va faire flipper tellement de personnes que je suis pas du. Moi, je pense que c'est pas du tout dit que ce soit un grand carton ce jeu. Il est super intéressant, il est innovateur, etc. Il est ultra risqué en termes de business.
Moi, j'adore. Mais
recherche de nouvelles franchise. Enfin moi
oui, bah super, mais enfin recherche de nouvelles franchises c'est une chose.
Là,
mais on investit beaucoup d'argent
ou pas artistique ou pas.
Moi je pense que c'est l'année où Electronic Arts est le plus en danger en termes financiers justement. C'est certes ils en ont besoin de cette recherche mais je trouve qu'ils la font de manière très courageuse. Parce qu'elle est sacrément couillue parce que faire un Mirror's Edge je suis pas persuadé que tout le monde puisse le permettre.
C'est pas un jeu de course, c'est pas un FPS avec un gun. Non, il y a des couilles quand même un peu.
Franchement, je trouve
Donc, et puis bon, à mon avis, sur le online,
merci
ils vont aussi bouger.
je sais pas.
Non, mais tu vois.
Mais attendez, deux secondes, parce que là, Angel, je suis pas d'accord avec toi.
C'est pas
parce qu'ils étaient numéro 1, aujourd'hui numéro 2, etc., que forcément, c'est le mal. Ils ont fait. Il y a plein de trucs, et on l'a dit, je crois, moult fois dans ce podcast, d'assez plus que limite. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas du tout d'accord. Plein de choses sur lesquelles il y a certains développeurs, etc. Voilà, mais voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je trouve que ils tentent des choses et que c'est pas du tout dit que ça réussisse en termes marketing et donc financier, et que du coup je crois que le côté Electronic Arts, en tout cas, ils essayent de le, le pousser, et qu'en tout cas, ils essayent, et que c'est louable.
Pour en revenir à ce qu'on disait au tout début, c'est les deux facettes.
Oui, voilà. C'est toujours à mi-chemin, j'allais dire.
Ah bah super, c'est sûr que Sony ne veut pas faire de business, que Microsoft veut pas faire de business, que Konami, Capcom.
Je suis le premier à dire, tu vois, c'est que ils ont.
Voilà.
Tu vois quand ils ont fait ce que quand ils ont fait Skate, c'était super bien fait quoi. S'ils ont fait, enfin maintenant si tu veux entendre uniquement ce que t'as envie d'entendre, tu vois on s'arrête là. Mais j'étais le premier à dire que tu vois que faire Skate donc pour faire la nique à Activision, ouais. C'était plutôt couillu et que par contre le faire de la manière dont ils l'ont fait, c'était plutôt courageux parce qu'ils ont mis des fonds et pas exactement pareil avec FIFA et probablement c'est ce qui va se passer avec NBA.
Mais
donc voilà.
Non mais globalement et c'est pour revenir juste pour recadrer parce que j'aime bien quand tu parles de choses qui n'ont rien à voir, si tu parles du côté artistique d'Electronic Arts, moi je suis désolé, Mirror's Edge me paraît artistique dans sa démarche, il y a une volonté créative derrière. Dead Space un peu moins, c'est très efficace, c'est très carré etc, mais c'est super efficace justement. Mais non, Electronic Arts tente parfois par petites touches de faire un peu de choses artistiques et que c'est pas parce qu'on est riche et gros qu'on peut pas essayer d'être un peu artiste parfois, et je trouve que Electronic Arts aujourd'hui
essaie d'avoir une certaine volonté d'innovation, tout ça.
Exactement, quoi. Sony, je suis désolé, ils essaient aussi de se faire de l'argent, ils arrivent à faire des pépites comme un Shadow, comme un Ico et d'autres développeurs aussi, pourtant tous, hein, tous dans ce business, ils essaient de se faire de l'argent. Et je serais tenté de dire, Angel, que toi le premier, nous aussi, on essaie de gagner notre vie. Et si Gameblog pouvait arriver à des millions d'euros, on serait tous heureux. Donc n'oublions pas une chose essentielle, c'est que chacun essaie de vivre de sa passion.
Et
si
nous annonçons aujourd'hui
des milliards, et bah,
nous
tu en es très heureux.
Gameblog en Gameblog Arts.
Exactement. United.
United.
Voilà
Artists.
À peu près tout ce qu'on pouvait dire sur Electronic Arts. Electronic Arts, leader hein, pendant très très longtemps, aujourd'hui deuxième éditeur tiers au monde. Mi-ange dit démon. En tout cas, une histoire mouvementée, je trouve, hein, des hauts, des plus bas, et une histoire toujours en mouvement. On ne sait pas du tout Electronic Arts où ils seront encore dans 5 à 10 ans. Ils sont déjà plus leaders, ils prennent des risques. Je ne suis pas persuadé que sur certains titres ça va payer, on verra.
Mais attention, ils ne sont plus leaders parce qu'il y a deux autres plus petits qui sont devenus plus gros en s'associant. Mais...
Oui, mais ils baissent un peu. Ils font un peu moins d'argent.
Peut-être qu'encore numéro 1 si les autres savaient pas fusionner.
FIFA pendant très longtemps était largement devant, ils le sont plus. Enfin voilà, leur gros sport ne marche pas aussi bien que les Sims. Enfin voilà.
Mais ils ont tenté, ce que je voulais dire tout à l'heure.
Bien sûr.
Ils ont tenté. Parce que combien d'argent il y a eu à investir dans sport ? Parce que même si c'est pas une équipe énorme, c'est des années, des années.
Des myriades de dollars.
Ça doit être une grosse déception pour eux.
Je pense aussi, ouais.
On a pas parlé de la. Des DRM de sport d'ailleurs.
Oui, parce que c'est un chapitre noir et.
Ce sera encore de la tristesse. Un jour, ils verront leurs erreurs.
Exactement. Je crois qu'ils ont commencé à les comprendre un petit peu à ce niveau-là parce que c'était tellement honteux. Enfin bon. Donc voilà, l'histoire d'Electronic Arts, j'ai envie de dire à suivre. Hein, c'est loin d'être fini. C'est même à la limite passionnant. C'est une belle histoire. C'est un grand roman. C'est tellement de choses à la fin.
C'est le début d'une chanson, ça.
Exactement.
Ils se sont croisés.
C'est un peu là où je voulais en venir. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette saga Electronic Arts 1982 à 2008 pour l'instant, à suivre. Nous, eh bien, on se donne rendez-vous pour un prochain podcast dès mercredi prochain. Et vous allez voir, il va se passer des choses dans les jours à venir. Et quand on parlera la prochaine fois dans le micro, on parlera peut-être d'autres choses, vous allez voir. Enfin bon, on peut pas en dire plus. Non, on peut pas en dire plus, mais...
La Lilou Lélo,
voilà. Gameblog is evolving. Allez, on vous fait des gros bisous. Parlez bien sur les forums, réagissez. Hein. Electronic Arts pour vous, est-ce que c'est juste le mal ? Est-ce que c'est le mal ou le bien ? Est-ce que c'est les deux ? Quels sont les titres qui vous ont fait rêver ou ceux qui vous ont fait halluciner dans l'autre sens ? Eh bien, n'hésitez pas à réagir. Rendez-vous mercredi prochain sur un nouveau Gameblog. Bise, ciao.
Ciao.
Salut.